Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens vont penser que c'est pas vrai. Florentino vient de m'envoyer un message du mariage de Ramos avec une vidéo de ses retrouvailles avec Beckham. Je vous jure que c'est vrai.
Fabinho qui est moins la lance de lancement, la rampe de lancement.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot qui est on joue comme on s'entraîne.
Évidemment.
Est-ce qu'on donne les clés du wagon à la locomotive à Malinovski?
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est Génération After spécial Drôle de Dame, la seule émission à la radio qui parle pendant 2 heures de football étranger. Pour l'Italie ce soir, une drôle de dame qui n'est plus à un an près. La dernière fois qu'un club italien a gagné la Ligue des Champions, il avait 24 ans, il avait des cheveux et la GOCR était 3e de Ligue 1, une autre époque. Bonsoir Yvan Crochet.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Pour l'Allemagne, une drôle dame qui avance telle la grosse Bertha vers la Ligue des Champions avec son FCB, son BFB, son Benulfir, son RBL et son VFB. Bonsoir PB.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
Paulo Breitner est là ce soir. Pour l'Espagne, une drôle dame adepte du CTRL-C, CTRL-V, le Real inquiète en début de saison, le Real est champion d'Europe. Bonsoir Fred Armel.
Hola Chico, c'est la même histoire. C'est pour ça que moi je m'inquiète pas parce que je les ai.
Toi, tu prends les fiches chaque année.
À chaque fois, je dis bah là, de toute façon, mais c'est ce qu'il faut. Il y a toujours une petite crise au début pour faire croire aux autres que cette année oui, puis finalement non.
Et c'est ce que tu vas raconter encore un peu ce soir. Oui. Ah, oui. Pour l'Angleterre, une drôle de dame qui peut réussir l'exploit de présenter un favori dans la Ligue des Champions, exclu de son championnat. Vive Manchester City. Quelle honte, Julien Laurence. Bonsoir, mon cher Julien.
Salut Nico, salut à tous. On n'en est pas encore là.
Ouais, enfin. On y est presque. Si on n'y est pas, c'est un scandale. On en parlera bien sûr ce soir, c'est un des gros sujets qu'on va développer avec toi. 15 secondes, les drôles dames. 15 secondes, hein, je suis très strict. Je commence avec toi, mon cher Polo.
On va s'intéresser au développement du club saxon de Leipzig, savoir s'ils peuvent faire quelque chose en Ligue des Champions. On va aussi se poser la question rapidement si on n'aurait pas un championnat à deux vitesses. Et puis on aura une petite minute en forme d'anniversaire.
Fred.
Bah bien entendu, on va parler de ce super Barça qui va aller faire un petit tour à Monaco. Ils sont impressionnants. Ils sont vraiment impressionnants. On a l'impression qu'ils ont retrouvé une envie que nous ne voyons pas depuis des années. On va parler de Gérone aussi, rival de Brest, qui est quand même la moins impressionnante que la saison dernière.
PSG.
Le rival du PSG. C'est quand même dommage, mais on s'y attendait un petit peu. La claque prise par le Barça dit quelque chose. Et dans la minute, on va parler des problèmes du nouveau Bernabéu.
Bah oui. Julien.
On va parler du derby du nord de Londres hier entre Tottenham et Arsenal, bien sûr, de Manchester City, tu l'as dit, et du début de leur procès contre la Premier League. Et puis une petite minute sur une vidéo qui est devenue virale et on lancera plein de bisous d'amour à Ebou Adams.
Et Johan.
On va évoquer le début de saison ratée de la Roma, évidemment, malgré de lourds investissements, hein, quasiment 100 millions d'euros dépensés. Le retour de Bologne en Ligue des Champions, 60 ans après, et un petit débat autour de ces équipes inattendues en Ligue des Champions cette saison, et on fera un tour dans les stades italiens.
La Ligue des Champions de retour, le Covid aussi. Merci Yohan d'être avec nous ce soir.
Yohan,
et de faire cet effort.
Ah ouais,
oui, un petit
il
Covid.
Parfaitement à l'image du foot italien.
La voix est pas
Mais c'est sa visite à Amsterdam l'autre jour.
Et non, même pas.
Bon, Johan est avec nous, les gars. Il faut féliciter et le remercier de tenir bon.
Courage.
21h45, vous le savez, vous nous appelez le 32-16. Les drôles de dames face aux auditeurs. Hein. Vous posez vos questions à Fred, Johan, Polo et Julien. Et puis à 22h, l'after avec Gilbert. Bonsoir, Gilbert.
Salut, les gars. Gros after ce soir, hein, avec Florent Gautreau, Daniel Riello. David Terrier sera là, vice-président de l'UNFP. On en parle souvent de l'UNFP dans l'after, les cadences infernales, l'affaire Panini, l'élection du président de la Ligue. David Terrier sera donc là, vice-président du syndicat des joueurs. On parlera également Mercato avec Bruno Satin, l'agent de tous les agents, qui est de retour. Lui, l'agent numéro 001, puisque c'est le sosie de Sean Connery, hein, vous êtes au courant?
Ouf. Ouais,
bien,
oui,
sûr.
Oui.
Ah, bien sûr, c'est totalement Sean Connery, c'est incroyable.
C'est un peu une connerie.
Quoi? Fred, il...
Une connerie avec Sean Connery?
Non, mais c'était une blague des inconnus à l'époque.
Ouh! Et Rabiot, évidemment. Des centaines de supporters marseillais attendent actuellement Adrien Rabiot à l'aéroport à Marignane.
Ça, on n'a pas en Espagne, ça
c'est une prise de guerre.
En Angleterre aussi.
Pour l'OM, c'est complètement fou. Donc là, on va suivre cette soirée de l'arrivée de Rabiot qui arrive tel le Messi à Marseille, lui l'ancien Parisien. C'est marrant parce qu'à Marseille, on s'en fout complètement qu'il joue au PSG. Par contre, à Paris, ça contrarie quand même pas mal de supporters qu'il aille à Marseille.
Ah,
eh oui.
Bon,
Je pense que le Real fait une erreur parce qu'il y avait l'occasion de faire venir. Donc.
Et puis, supporter toulousain, sachez que Florent Gautreau a promis hier soir de parler de Toulouse ce soir. Il aura un avis argumenté, travaillé ce soir sur votre club aux alentours de 22h30.
Gilbert, à tout l'after, à tout à l'heure sur RMC comme tous les soirs jusqu'à minuit. C'est parti pour les drôles de dames. Tiens, rapidement les amis, en 20 secondes chacune, Rabiot à Marseille, mon cher Johan, toi qui nous l'envoie depuis l'Italie, tu souffles déjà. Est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu as du mal à comprendre la trajectoire du garçon?
Non, on l'avait évoqué il y a quelques semaines et mon impression c'est que pour moi il n'en ferait pas une question d'argent de son choix de prochain club et je sais que c'est un discours qui ne va pas dans le sens de beaucoup d'autres. Donc je suis pas surpris à ce niveau-là. Ce qu'il faut quand même expliquer que sans De Zerbi cette saison, il y aurait pas autant de bons joueurs qui seraient arrivés, ça c'est clair. Et que c'est forcément attractif de jouer ce type de football-là dans un stade important, dans un club important qui peut vite faire cocotte minute quand les choses se passent bien. Donc il y a quand même la petite surprise parce que moi je l'attendais plutôt j'en ai parlé avec Julien et moi ça aurait été un fit assez parfait avec le Liverpool de Slot. Je l'attendais plutôt dans ce type de club-là, mais bon...
Julien, justement, toi, tu dis qu'on en parle également en Angleterre.
Ouais, j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui dans les émissions que j'ai faites ce matin et cet après-midi, en début d'après-midi, parce que c'est le PSG Marseille, parce que les Anglais aiment beaucoup ce genre d'histoire où tu vas chez l'ennemi à un moment de ta carrière, alors que tu avais dit par le passé que tu irais jamais et que tu finis par y aller et que finalement... Peut-être que c'est un petit peu le destin aussi qu'il y a un classique qui va arriver bientôt entre les deux à la fin du mois d'octobre et que ce serait tellement pas surprenant qu'Adrien Rabiot soit super fort ce soir-là pour l'OM contre le PSG. Donc voilà, toutes ces histoires-là, les Anglais adorent forcément. Donc surtout que Rabiot, on en a beaucoup parlé en Angleterre aussi puisqu'on sait que certains clubs anglais dont Manchester United étaient encore intéressés par lui. Moi, c'est un frérot, donc je peux pas trop critiquer. Il fait les choix qu'il souhaite à un moment de sa carrière qui est important aussi. C'est un gros contrat. Il a 29 ans. C'est presque terminé. C'est plus près de la fin que du début de sa carrière. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur malgré tout.
Voilà les gars pour le point Adrien Rabiot. Ligue des Champions. Vas-y Fred.
Mais moi, vas-y. Non. Le truc, c'est que Gilbert en parlait, donc j'ai un peu. Je pense que Real a fait l'erreur de ne pas prendre Adrien Rabiot. Parce que vu les problèmes milieu de terrain, je pensais que c'était un joueur pas pour être titulaire tout le temps, mais qui aurait pu être très très utile vu ce qui se passe en ce moment au milieu du terrain du Real Madrid. On l'avait évoqué un moment, ils se sont renseignés, etc. Mais le Real fait très attention à ses sous, encore plus après la minute dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, mais c'est fou parce que Adrien Rabiot, je vois tous les articles qu'il y a eu dans la presse espagnole, est un joueur connu et reconnu de l'autre côté des Pyrénées.
Polo, ça t'inspire ce transfert, cette arrivée de Rabiot à Marseille?
Ouais, ça me surprend beaucoup parce que je suis comme Johan, c'est-à-dire qu'on en a parlé du côté du Bayern et moi, parce qu'il était gratuit, hein, entre guillemets, parce qu'il y a des primes à signature maintenant qui sont assez démentielles.
On est libre maintenant, voilà, c'est ça.
Ouais, il faut dire libre. Ouais. Ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est le décalage entre les noms des clubs qui souhaitaient théoriquement Rabiot et là où il va.
Oui.
Parce que Marseille évidemment est un très grand club, c'est pas la question, mais n'a aucun moyen financier par rapport à d'autres en Europe. Donc je suis très surpris par le choix. J'aimerais des explications. J'aimerais qu'il confirme aussi les rumeurs que certains clubs plus huppés entre guillemets que l'OM s'intéressaient à lui. Mais c'est aussi peut-être un choix de carrière où mon compte en banque est bien fourni, je m'en fiche un petit peu et là je fais ça pour me faire plaisir. Ça peut être aussi une forme de développement de carrière.
Dépassé par son hésitation, ses atermoiements également, et aujourd'hui s'il est dans un club, il pouvait pas jouer quoi qu'il arrive. La Coupe d'Europe. Non. Les listes ont déjà été rendues il y a une semaine. Ouais. En tout cas sur la première phase. Ligue des Champions justement qui commence cette semaine. Les amis, c'est parti pour 8 journées de phase de Ligue. C'est comme ça qu'on dit désormais parce qu'il n'y a plus de groupe. Jeudi soir, tiens, 21h, grosse affiche pour nous et pour le football espagnol peut-être aussi. L'AS Monaco qui reçoit le FC Barcelone en très grande forme, tu l'as dit Fred. 5-5 en Liga, 17 buts marqués, 4-1 sur la pelouse de Gérone ce week-end, Lamine Yamal en feu. On est inquiet pour Monaco.
Je pense qu'on peut être inquiet pour Monaco. J'ai vu passer un tweet aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de bêtises, hein, comme ça, mais il y a certains tweets qui sont très drôles, mais qui sont aussi très significatifs de comment on vit à Madrid ce qui se passe avec le Barça. Un supporter du Real qui met la photo de Xavi Hernandez en disant, tu nous manques. Oui, tu nous manques. Parce qu'Hansi Flick est en train de faire un boulot fantastique. C'est-à-dire, et du côté de la presse barcelonaise, ça commence à comparer les deux. En disant, Xavi, alors, il faut voir que le match à Gérone d'hier était, je pense, le premier véritable test pour l'entraîneur allemand. Parce que rappelez-vous, l'an dernier, Gérone avait battu deux fois le Barça. au Camp Nou et au retour. Et au retour, je ne sais plus, vous avez mis 4 buts aussi, et au retour, ça avait précipité le départ de Xavi. Voilà, ce soir-là, Laporta décide de... Non, on ne peut plus, parce qu'à ce moment-là, Gérone était repassé à la deuxième place de la Liga, et c'était insupportable pour le Barça d'être derrière un tout petit club de la même région. Et donc, le test, il l'a passé avec Flick, avec Soltula, comme on dit en espagnol, avec aisance, parce que ce Barça, au-delà de tous les aspects tactiques, je pense que, bon, déjà, il y a un côté qui est très important, c'est le pressing qu'ils font sur la sortie de balle. Les deux buts, les deux premiers buts hier, c'est du pressing sur la sortie de balle qui provoque des erreurs de l'adversaire. Ça, c'est vraiment très fort. Physiquement, ça n'a plus, la préparation physique n'a plus rien à voir avec l'an dernier. On verra. On en sera au mois de mars. Mais on parle aujourd'hui, cinquième journée. Physiquement, ils sont vraiment très, très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un enthousiasme. J'ose même dire que j'ai envie d'utiliser cette saison les mots que j'utilisais l'an dernier quand je parlais de Gérone. Cette jeunesse, cette envie, ce côté un but ça suffit pas, un deuxième ça suffit pas, on y va, il y a une sorte de joie sur le terrain qu'on n'a pas vu depuis très longtemps au Barça. Et je pense, et je vois Manolo Oliveros, qui est l'un des grands commentateurs historiques du Barça pour la COPE, la grande chaîne de radio espagnole, faisait une analyse en disant, mais ouais, en fait, vous avez un type qui est sérieux, qui est carré, qui cherche pas d'excuses, qui explique bien les choses. L'an dernier, tu avais Xavi qui disait, ah oui, cette heure-là, elle est pas bonne pour nous, il y a du soleil. Non, mais la pelouse, elle était pas bonne. Tu vois, aujourd'hui, ils sont en train de cramer un peu, d'attaquer un peu Xavi en disant, finalement, le problème n'était pas tellement l'équipe, mais était plutôt l'entraîneur.
Et putain, Flick, on en parlait, il dégage une tranquillité sur le terrain, une sérénité.
Et ben voilà.
Seulement le contraste absolu avec Xavi.
Mais c'est exactement ce que je voulais dire. Rappelez-vous la saison dernière. Xavi, il s'est fait expulser plein de fois. Parce qu'il criait sur les arbitres, il criait sur les joueurs. Il inspirait une nervosité et il transmettait cette nervosité aux joueurs. Et donc, ça ne faisait que rajouter la nervosité à la nervosité. Là, vous avez un type Hansi Flick qui est tout calme, tranquille, jamais un mot plus que l'autre, plus haut que l'autre. Et ça fonctionne sur le terrain. Puis après, ça aide aussi quand t'as la Lamine Yamal, hein, parce que là, de toute façon, aujourd'hui, la Lamine Yamal, c'est le joueur le plus décisif de la Liga, si on compte le nombre de buts et le nombre de participations à des buts comme des passes décisives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus décisif que lui, il a 17 ans. Toujours le même discours, on va attendre. Mais là, la confirmation, elle commence à être assez impressionnante. Hein.
Polo, tu crois de plus en plus dans ce mariage, Flick,
c'est
Barcelone.
Ouais, enfin, moi, c'est pas important. C'est ce que dit la presse allemande. C'est vrai qu'ils suivent ça parce que moi, j'arrête pas de le dire. Les Allemands, les coachs allemands ou les joueurs qui sont à l'étranger sont des messagers du football allemand. C'est comme ça que vit au niveau de la communication le football allemand. Je suis pas surpris. J'aime beaucoup ce qu'a dit Fred sur le côté gegenpressing. Je pense qu'il y a un jeu beaucoup plus vertical, qu'horizontal avant peut-être. Oui. Et ça, c'est du football allemand. C'est celui qu'on a vécu pendant 10-15 ans, et puis on l'oublie tout le temps. Hansi Flick, moi je me dis tout le temps, c'est un peu le gars qui sort de l'ombre, mais le mec, il a été champion du monde avec Joachim Löw, il a gagné la Ligue des Champions évidemment avec le Bayern, il a succédé évidemment à un autre coach, il a toujours été dans le bon mood, donc moi ça me surprend pas qu'il réussisse à Barcelone. Maintenant il faut le faire sur la durée, et peut-être que dans quelques semaines, lorsqu'il y aura des matchs ou des contre-performances, on se dira, ah, mais peut-être que le Barça est un peu démantibulé parce que ça presse trop haut, il y a de la place derrière, lorsqu'il y a des attaquants qui vont beau très vite, on verra tout ça, ce qui va se dire, mais en tout cas, faut profiter de ce moment. Et moi, je souhaite évidemment qu'on dise Flick réussisse en.
Mais sur la question physique, franchement, Polo, là, son équipe fonctionne.
Oui,
voilà, parce qu'avec Xavi, il y avait toujours un moment où ça s'écroulait. Alors que là, ça tient. Parce que pour faire le gegenpressing, comme tu dis, il faut une certaine condition physique.
C'est le début de saison. Puisqu'on parle de physique, il y a un pépin comme Dani Olmo, absent pendant 4 semaines à venir, blessé ce week-end.
Ouais, lésion.
Qui va manquer, ce sera le seul vrai aggro absent du duel entre Monaco et le Barça.
Parce que il fait encore un bon match, il joue une heure. Un petit mot dans la question d'y revenir dans les prochaines semaines. 28e blessure musculaire en 5 journées de Liga. C'est musculaire, hein. Donc il y a, je sais pas comment ça se passe chez vous, les copains, mais en Espagne c'est une hécatombe.
On en parlera. Daniel Mo, qui est un homme qui se blesse assez régulièrement quand même. Et Polo, c'est quelque chose.
Mais il y en a d'autres aussi en Espagne, donc il y a un problème aussi.
Dans un instant, Arsenal qui remporte le derby de Londres avant de lancer sa Ligue des Champions contre l'Atalanta, qui plaît de plus en plus également à Johan Crochet. On en parle. Vous écoutez Génération After. Vous écoutez les drôles de dames. À tout de suite sur RMC.
RMC 20h-22h Génération After.
Avec les quatre drôles de dames, Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. Julien, justement, l'Angleterre ce week-end, le North London Derby, qui a accouché d'une victoire d'Arsenal 1-0. Gabriel, un buteur, seul buteur. Beau succès des Gunners, mais c'était pas flamboyant, mon cher Julien. Ceux qui attendaient
non,
un, le même que l'an dernier, mais important. Ouais.
Ouais, t'as raison. Même moi, j'avais prédit une victoire 3 de Tottenham. J'étais sûr qu'il y aurait beaucoup de buts. J'étais sûr que Tottenham à domicile, notamment dans un derby pareil, dans un match pareil, allait enflammer un petit peu tout ça, que ce serait un match assez ouvert. On savait comment Arsenal allait jouer plus ou moins parce qu'il leur manquait beaucoup de joueurs. Ils avaient que 14 joueurs véritables de l'équipe première disponibles. Il y avait beaucoup d'absents, dont Declan Rice qui était suspendu et surtout Martin Odegaard qui s'était blessé avec la Norvège pendant la trêve internationale. Donc il manquait aussi des joueurs comme Zinchenko, comme Calafiori, comme Tomiyasu par exemple. Donc il manquait pas mal de joueurs aussi à cette équipe d'Arsenal. Donc on savait qu'ils auraient une approche un petit peu plus défensive qu'à l'habitude, qu'ils allaient jouer assez bas, qu'ils allaient miser sur les contres. Et aussi beaucoup sur les coups de pied arrêtés. On sait que c'est la grande faiblesse de Tottenham, ces coups de pied arrêtés. C'est l'une des équipes en première ligue depuis l'arrivée d'Ange Postecoglou qui concède le plus de buts sur coups de pied arrêtés. Et de l'autre côté, on sait qu'Arsenal est l'équipe qui marque le plus sur coups de pied arrêtés. Ils ont un entraîneur attitré pour les coups de pied arrêtés, un Français, Nicolas Jauvert, qu'on salue, qui nous écoute, qui est un génie des coups de pied arrêtés.
C'est bien qu'il nous parle un jour, Nicolas Jauvert, ton frérot d'ailleurs.
C'est un petit peu compliqué parce que Mikel Arteta aime pas trop quand on parle trop du succès d'Arsenal. Mais je suis sûr qu'un jour il viendra nous raconter un petit peu cette incroyable histoire parce que Arteta l'a amené à Manchester City, puis ensuite l'a amené aussi avec lui à Arsenal et il fait des merveilles vraiment avec cette équipe-là. Le corner de Saka, la tête de Gabriel hier sur l'unique but de la rencontre, un corner défendu d'une façon tellement catastrophique par Tottenham que même une équipe de U14 nationaux par exemple aurait mieux défendu que ça. Romero qui ne saute pas, un gardien Vicario, entre Donnarumma et Vicario, je sais pas ce qu'ils ont les Italiens, mais ils aiment pas du tout sortir sur les centres, même dans les centres dans les 6 mètres. Encore une fois, on l'a vu avec Vicario. Et au final, moi, ce qui m'a finalement le plus déçu dans ce match-là, c'est la performance de Tottenham. Hormis les 10-15 premières minutes où ils ont bien pressé, ils ont été assez efficaces dans le pressing et dans le contre-pressing, ils se sont créés deux occasions, on va dire, assez intéressantes par Kulusevski. Après ça, c'était rideau. C'était trop prévisible. Il n'y avait pas assez de créativité dans le jeu avec ballon. Ils ont eu beaucoup le ballon. Ils ont joué dans la moitié de terrain d'Arsenal. Mais au final, c'était bien trop facile pour Arsenal de défendre contre cette équipe-là de Tottenham qui a jamais su vraiment faire de différence. On a toujours vu les mêmes mouvements, les mêmes actions, les mêmes constructions. Et au final, contre une équipe aussi forte défensivement qu'Arsenal, cette équipe d'Arsenal, je sais que la Juve est la seule équipe à pas encore avoir concédé de but dans les 5 grands championnats cette saison. Mais pour moi, cette défense d'Arsenal-là, c'est la meilleure en Europe. Il n'y a rien à dire entre Raya, Gabriel, Saliba. Mais Gabriel, Saliba, c'est des monstres. C'est vraiment des monstres. Et il en fallait beaucoup plus pour que Tottenham puisse les déranger, les bouger, les faire douter un petit peu. Ils ont jamais été en mesure de le faire. Et moi, je suis très déçu par Ange Postecoglou qui, sur la dernière demi-heure, après le but de Gabriel, je trouve, a fait n'importe quoi dans son coaching. Il s'est contenté de faire entrer des joueurs offensifs. Il y avait aucune structure tactique. Il y avait aucune organisation. Son Heung-min, on savait même pas dans quel, le pauvre, il avait l'air perdu complètement. Même lui savait pas dans quelle position il jouait. C'était du grand n'importe quoi. Et finalement, cette défaite de Tottenham, la troisième de suite, contre Arsenal à domicile, pour la première fois depuis 1988, qu'ils perdent 3 matchs de suite à domicile contre leur rival et voisin. Pour moi, elle est aussi en grande partie à cause de Postecoglou.
Un but encaissé Arsenal, meilleure défense de première ligue avec Liverpool après 4 journées. Arsenal qui va affronter l'Atalanta jeudi soir, mon cher Johan. Comment va l'Atalanta?
L'Atalanta va plutôt bien. C'est toujours l'équipe qui donne le plus de plaisir en Serie A aux passionnés de foot parce qu'il se passe toujours quelque chose. Alors il y a des fois où ils passent totalement à travers, comme le match contre l'Inter, mais les autres matchs, ils sont évidemment un peu fragiles défensivement en ce début de saison. Il y a des absents en défense. Je pense à Scalvini. Il y avait Toloi qui était aussi absent. Kolasinac a été absent en début de saison. Donc il y a eu des repères à prendre et une structure défensive qui est pas encore tout à fait au point. Par contre, la force de frappe offensive, on la connaît. Malgré là encore là des blessures, puisque Scamacca est blessé, mais ils ont pris Retegui marque des buts. Ils ont perdu Kopmeiners au dernier moment, mais ils réussissent plus ou moins pour le moment à pallier avec des joueurs de. Évidemment, Brescianini, c'est pas Kopmeiners, c'est pas encore en tout cas, et je suis pas persuadé qu'il ait le potentiel pour devenir aussi fort que Kopmeiners. Mais c'est une équipe qui est sur globalement de ce qu'elle peut faire, qui a la confiance maintenant aussi d'un titre global majeur.
Elle peut poser problème à Arsenal ou pas jeudi soir, Julien? Je te pose Johan, je te pose la question franchement.
Bah oui, oui. Après, ça dépendra de l'approche d'Arsenal parce que moi, je les ai vus plusieurs fois dans les grands matchs et ils sont assez, alors je vais pas dire passifs, on va dire plutôt réactifs. C'est-à-dire qu'ils laissent plutôt le ballon aux autres. Ils ont des joueurs évidemment qui vont très vite en transition sur les côtés, même au milieu, avec des qualités de passe qui sont importantes. Et ils peuvent faire mal aussi en transition. Je me demande quelle va être l'approche d'Arsenal et même en conséquence quelle va être l'approche de l'Atalanta, parce que souvenez-vous, contre le Bayer Leverkusen, on avait un peu aussi cette question-là. Est-ce que le Bayer Leverkusen va essayer d'imposer son jeu comme d'habitude, et auquel cas l'Atalanta est clairement l'équipe qui peut les gêner sur une rencontre. Je pense qu'avec Arsenal, ça peut être plus ou moins la même chose. Il faudra évidemment que ça s'améliore défensivement, parce que là, c'est vraiment... Moi, je vois des trucs vraiment aberrants en ce début de championnat. Rappelons quand même que Gasperini, sur ce début de championnat, explique qu'il fait des tests parce que les joueurs sont arrivés tellement tardivement, ont été recrutés tardivement, qu'il a pas eu le temps de travailler en préparation. Et donc, les premières journées, c'est pas illogique d'avoir des petits soucis de réglage, normalement d'alignement, de marquage en zone, enfin individuelle, mais sur des zones précises, avec des joueurs qui doivent aussi un petit peu s'habituer. Moi, je pense qu'ils ont les qualités pour leur poser problème. Il y a aussi les questions d'effectifs à Arsenal, quelques
actions aussi qui peuvent tourner. Ouais, tout à fait.
Ouais, donc ça sera aussi à l'avantage de l'Atalanta. Mais comme ils ont un peu le même problème aussi de leur côté, avec pas mal de blessés, c'est un peu une bataille déclopée. Donc on verra bien. Mais moi, je suis assez excité avant ce match-là, parce que l'Atalanta est une équipe qui me plaît beaucoup dans le jeu. Arsenal est une équipe qui me plaît beaucoup globalement dans le jeu. Et donc j'ai finalement hâte de voir ça, et hâte de voir si l'Atalanta maintenant a un échelon supérieur, c'est-à-dire en Ligue des Champions. Oui. Ils l'ont fait quelques fois en phase de groupe, mais là ils reviennent après avoir joué l'Europa League. Ils sont aussi capables maintenant de tenir tête de manière plus régulière aux très très gros d'Europe.
Je vous suggère le but d'Ademola Lookman sur la course sur quasiment 50 mètres, exceptionnel.
Le lui grand pont sur Beauvais.
Oh là là, là. Extraordinaire. Ce sera jeudi soir, ce duel entre Arsenal et l'Atalanta. D'ailleurs, ce soir, breaking news, qui est leader de Serie A? L'Udinese.
Eh oui.
Qui vient de s'imposer 3-2 avec un doublé du capitaine.
Flotovin,
tout simplement. Voilà.
Et en plus, pour lui, marquer 2 buts dans les 5m50, je pense que c'est assez inédit dans sa carrière. Ouais. Même si on peut estimer que le premier, il l'a plus ou moins volé à Davis, parce que le ballon, sans doute, allait entrer et il l'a poussé quand même. Mais.
Incroyable.
L'Udinese. C'est au moins le. Ça montre au moins le retour en, alors je sais pas si c'est en grâce, mais en tout cas un bon niveau de Florian Thauvin, qui a eu vraiment des difficultés ces derniers mois.
Mais dans un jeu qui, il y a quelques mois, il voulait quitter l'Italie, il a fait un appel du pied à la Ligue 1, je suis prêt à revenir en France.
Et puis, et
aujourd'hui,
et
il est capitaine à l'Udinese.
Sincèrement, le jeu de l'Udinese ne lui allait pas du tout. Et là, avec le nouvel entraîneur Runjac, ça joue un peu plus au ballon, même si c'est pas encore formidable. Et il a une place centrale, on lui a donné le brassard de capitaine, c'est des responsabilités, il a envie de ça. Il y avait une interview de lui dans la Gazzetta en début de saison, et on sent qu'il aime ces responsabilités-là, et que le jeu qui tourne autour de lui lui va plutôt bien.
Il marche à l'affect. Tu nous le cales bientôt, mon cher Johan, dans le Dame le lundi soir. Ok.
Dois-je rappeler la dernière fois que Florian Thauvin est venu?
Oui, mais c'est pas pareil. Et puis,
c'est pas pareil. Tu iras lui dire, mon cher.
C'était un malentendu.
Ouais.
Voilà pour ce duel. Donc, Arsenal, Atalanta, dans un instant, la nouvelle Ligue des Champions est-elle une chance ou un piège pour les petits clubs engagés? On va en parler. On voulait en parler ce soir. On parle de Gérone, on parle de Bologne. J'allais dire Aston Villa. Mais bon, Julien va y rouler peut-être. Restez avec nous. On est avec les drôles de dames, comme tous les lundis soirs, de 20h à 22h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Paulo Breitner, Julien Laurent, Johan Crochet et Fred Hermel. On est ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle à 21h45, le 32-16. Vous appelez dès maintenant, vous posez vos questions à Fred, Paulo, Johan et Julien. N'hésitez pas, le 32-16 est déjà ouvert. Ligue des Champions qui reprend donc ce mardi. Il sera sur 3 jours, uniquement pour la première journée de la phase de Ligue. Mardi, mercredi, jeudi, on sera là bien sûr avec l'after, comme tous les soirs, les matchs en direct aussi. Comment vont les petits clubs, vos petits clubs, faire pour tirer profit de la nouvelle Ligue des Champions? C'est un thème qu'on voulait aborder ce soir, que Johan voulait aussi aborder. Alors, quand je dis petits clubs, je pense que Julien va me dire qu'il n'en a pas en Ligue des Champions cette saison.
Ah non, soyons... Faites un respect, quand même.
Bon, Aston Villa, quand même, on va voir comment ils vont s'en tirer. En Allemagne, Polo, t'as un petit club?
Non.
Ok. Alors, commençons par Gérone, qui va affronter le Paris Saint-Germain.
Eux, ils se
mais c'est ça qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de surprise chez eux, en fait, tu vois.
Tu vois, au moins, il se passe des choses. T'as un Gérone qui peut être troisième de Liga. Ouais. T'as un Bologne qui peut faire top 4 en Serie A.
C'est pas très bon signe.
Peut-être.
D'avoir Gérone en Ligue des Champions et Valence dernier championnat. D'ailleurs, c'est le podcast Espagne. C'est sur Valence, la situation de Valence.
Très bien.
Ça, c'est pas très bon pour le foot espagnol que Valence en soit là.
Bon, on peut citer Gérone, on peut citer Bologne, bien sûr. Brest, chez nous, en Ligue 1, annoncé comme des épouvantails dans cette nouvelle formule, en plus à 8 matchs, sans grand espoir d'aller loin. Gérone n'est plus vraiment cette équipe, mon cher Fredo. Quelques mois sont passés. Cette équipe qui avait terminé troisième de Liga. La Ligue des Champions peut être longue et douloureuse. Elle commence mercredi soir face au Paris Saint-Germain.
Oui, alors c'est une équipe qui a perdu des joueurs très importants, comme Dovbik, comme Savio, comme Eric Garcia. Je pense que c'est une équipe qui a vécu sur un sentiment, un état de grâce, ce sont quasiment toute la saison. C'était vraiment le grand souffle d'air frais sur la Liga la saison dernière. Sauf que c'est très dur de se remettre, même pour les joueurs. Une fois que tu es sorti, que tu es parti en vacances, que voilà, certains ont changé, les recrutements sont pas mal. Enfin, c'est des recrutements de Gérone. Tu te retrouves là. Mais le problème, et ce que ça a été très clair face au Barça, c'est qu'on a l'impression que Gérone joue exactement de la même manière que lorsqu'il était dans l'état de grâce. C'est-à-dire, regardez le premier but du Barça hier, la sortie du ballon, mais catastrophique, et qui a été catastrophique pendant tout le match de Gérone. C'est-à-dire que la défense, elle est très fébrile, parce que ils essayent de jouer avec des relances, mais hyper dangereuses dans la surface, comme s'ils étaient l'un des plus grands clubs du monde et comme s'ils étaient en état de grâce. L'an dernier, ils y arrivaient parce qu'ils étaient au-dessus de leur niveau. Tu vois, il y avait une confiance générale qui faisait que tu pouvais te permettre des choses. Là, franchement, waouh, je n'ai absolument aucun souci pour le PSG. Si le PSG fait comme le Barça, c'est-à-dire avec un pressing puissant, très haut, ils vont pouvoir s'amuser face à Gérone. Parce qu'en plus, pour Gérone, enfin, ça va être une découverte de dingue d'être en Ligue des Champions pour beaucoup de joueurs. Ça va être la première fois. Donc, ça va être très intéressant à voir. Mais je pense que Luis Enrique a bien étudié le profil de Gérone. C'est une équipe qui ne sait pas jouer autrement, mais son jeu n'est plus adapté à ce qu'ils sont aujourd'hui.
Gérone qui va jouer Paris, Liverpool, Milan, Arsenal, Feyenoord, Bratislava, PSV Eindhoven et Sturmgrass.
Moi, je pense que Gérone sera pas là au mois de février quand ça là, parce que ça dure plus longtemps que cette fois-ci, hein, puisque c'est la phase de groupe là. Elle dure jusqu'au mois de janvier. Janvier, février, c'est plus là, je pense.
Johan, faut-il craindre le pire pour Bologne, sans Thiago Motta, sans Calafiori, sans Zirkzee notamment, actuellement 17e de Serie A.
Bon, le pire, je sais pas, c'est très difficile pour les clubs qui sont pas programmés pour réaliser des choses importantes d'avoir une gestion à la fois émotionnelle et économique qui fasse en sorte que ça fasse pas péter les plombs de tout le monde. On le pense pour un titre inattendu, mais on le pense aussi pour une qualification en Ligue des Champions pour une équipe qui était pas vraiment programmée, en tout cas pas à ce moment-là, même si ça restait l'ambition du club, qui est reparti sur un nouveau cycle avec Thiago Motta et avec notamment Sartori comme directeur technique. Donc, y a plusieurs éléments quand même qu'il faut regarder de près pour Bologne. La première chose, c'est l'ambition que doit avoir ce club-là. Elle ne doit pas être quantitative. Elle doit être qualitative. Quantitative, ça veut dire ça doit pas être se qualifier pour absolument pour le tour d'après ou en termes de résultats purs. Elle doit être qualitative parce qu'elle doit faire comme ce qu'avait fait l'Atalanta. Montrer que un club qui n'est pas programmé pour être dans ces sphères-là est capable de donner plein d'émotions, évidemment, à leurs supporters. Je veux dire, toute la ville n'attend qu'une chose, c'est le premier match de Ligue des Champions. Mais aussi au grand public. Donner une bonne image de Bologne, donner l'impression que ce club-là progresse, qu'il a un football attractif, comme c'était le cas avec Thiago Motta, comme ça sera le cas avec Vincenzo Italiano dans un style un petit peu différent. Et même si pour l'instant ils sont pas super bien payés en ce début de saison, il y a eu des matchs où c'était assez abouti, notamment je pense au match contre l'Udinese en tout début de championnat. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est la Ligue des Champions t'offre deux chemins possibles. Le premier c'est de te dire je vais en Ligue des Champions, donc le niveau s'élève, donc il faut que je recrute des joueurs qui vont avoir un niveau plus important. Mais ces joueurs-là sont sans doute parfois des joueurs un petit peu plus expérimentés, parfois ont la trentaine, qui demandent des gros salaires et avec des grosses indemnités de transfert. Ça, c'est le chemin numéro un. Le chemin numéro deux, c'est de te dire, c'est un bonus. On va continuer notre stratégie de développement qui est de recruter des jeunes joueurs et de les
développer. Progressive, exactement.
Ouais, avant de les revendre, comme ils ont fait avec Calafiori, comme ils ont fait avec Zirkzee, comme ils feront avec d'autres. Je pense qu'un Aebischer, je pense qu'un Ferguson, je pense qu'un même un Lukumi, ça sera le cas dans quelques mois ou quelques saisons maintenant. Et Bologne a choisi ce chemin-là, qui est le plus émotionnellement raisonné et aussi le plus strict au niveau du budget. Ne pas tout exploser au niveau du budget pour une seule saison. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être un club surprise en Ligue des Champions ? Ça veut dire donc que c'est assez inattendu. Si c'est inattendu, ça veut dire qu'il y a de fortes chances, que la saison d'après, tu n'y sois pas. Or, tu ne peux pas offrir des contrats de 3, 4, 5 ans à des mecs avec des très très gros salaires juste pour une saison de Ligue des Champions. C'est mettre en danger ton modèle économique. Et on a échangé un peu par mail, on avait échangé avec Polo la saison passée quand l'Union Berlin se qualifiait en Ligue des Champions. Il y avait des choix qui avaient été faits sur le recrutement avec des joueurs plus expérimentés, plus prêts sans doute à jouer la Ligue des Champions. Mais quelles ont été les conséquences de ça ? C'est que si la saison en championnat parallèle à la Ligue des Champions se passe pas très bien, bah tu te mets un peu en danger financièrement. Alors pas forcément en danger, de vie ou de mort, mais en tout cas, tu as un effectif disproportionné.
Polo.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça déjà, parce que ça signifierait que les clubs qui sont habitués à la Ligue des Champions ne peuvent pas descendre. Alors, on a le cas de Schalke 04 qui avait exactement le même problème et aujourd'hui est en seconde division. Le recrutement 2023-2024 d'Union Berlin en fait est très très bien fait, parce qu'il faut regarder que c'était un miracle permanent. Lorsque Union Berlin a eu sa crise des 13 matchs avec défaite l'année dernière, l'Union était numéro 1 au championnat, avait gagné ses deux premiers matchs de championnat 4-1. Donc personne l'a vu venir, sauf qu'on a oublié que c'était un miracle permanent ce qui se passe à Union Berlin. Qu'Union Berlin se qualifie pour la Ligue des Champions ou se qualifie pour l'Europa League ou pour l'Europa Conference League, c'est un miracle par rapport à l'effectif moyen qu'ils avaient. Là où je suis d'accord avec Johan, c'est que un joueur comme Gosens, qui a 29 ans, qui doit en avoir la trentaine maintenant, et que tu achètes 13 millions, tu sais très bien que tu ne feras pas une plus-value avec lui. Et ça, c'est une idiotie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un an après, il est évidemment reparti. Il sort d'ailleurs des petites phrases en disant qu'il s'est pas intégré, blablabla, etc. Enfin, lui, libre aux gens de croire que c'est ce qu'il raconte. Et on fait une moins-value. Pourquoi venir chercher un joueur qui était quasiment en retraite, Bonucci, alors qu'on avait une défense centrale assez expérimentée avec des joueurs qui jouaient déjà à la Ligue des Champions? Ça, c'est difficilement compréhensible. Le problème, c'est que souvent, et c'était ce qui était arrivé à Schalke aussi la dernière fois lorsqu'ils sont descendus en seconde division, les joueurs qui sont programmés avec des gros salaires pour jouer la Ligue des Champions ne savent plus ce que c'est que se battre week-end après week-end pour ne plus descendre. Et ça, il faut s'arracher. Et ça, on l'oublie. Et en fait, l'Union, je pense, l'a oublié à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est le boulard qu'a pris Union Berlin. Et non, je parle pas des joueurs, je parle de ce qui s'est passé dans les bureaux. Je suis allé à Berlin l'année dernière, fin décembre. Je n'ai jamais été reçu de cette façon dans un club allemand. L'attaché de presse, évidemment, nous ne sommes pas tombés amoureux et nous ne partirons pas en vacances ensemble. Nous avons échangé les noms d'oiseaux tous les deux. J'étais avec une équipe pour travailler là-bas. La salle d'interview était pas prête, etc. Et je me suis renseigné auprès de mon employeur qui me dit, mais tu sais, Polo, ça arrive souvent. Non pas avec les grands clubs qui sont en Ligue des Champions, parce que pour eux c'est une habitude et c'est presque une respiration entre le championnat.
Mais avec
c'est
les
petits clubs, les petits les clubs, merci. Les petits clubs qui se retrouvent dans une Ligue des Champions, qui veulent en faire un tintamarre, parce qu'ils n'ont pas l'habitude des médias dans tous les sens, et tu n'as pas forcément les compétences à l'intérieur du club pour gérer ce genre de choses. Et j'ai été extrêmement déçu évidemment, mais j'ai été surpris de ça, parce que ça doit être une fête pour Brest. Ouais. Il faut pas que ça devienne une contrainte. On s'en fout à la rigueur de te prendre une volée par le Real Madrid à domicile. C'est pas ça. Fais ton match, vis ton truc de l'instant présent, mais ne cherche pas à en vouloir en faire trop par rapport à ce qu'on veut faire. Donc moi, c'est ça qui m'a beaucoup déçu à l'Union de Berlin. Et je comprends ce que dit Johan sur le fait, mais j'ai l'impression que le mythe de cette Ligue des Champions pour les petits clubs, ça devient un justificatif pour avoir échoué, quoi. Et ça, moi,
Polo, tu te rappelles, Rétafé contre le Bayern avec le but de Locatelli à dernière minute?
Oui.
Tu te rappelles, c'était en Coupe UEFA, si je me souviens bien. Mm-hmm. Mais Rétafé, il nous traitait comme des merdes, nous, les journalistes. Il se prenait pour le plus grand club du monde, parce qu'ils étaient devenus parvenus. Alors que c'est un petit club de rien du tout. Ils étaient parvenus. Et donc, des gens qui étaient là à l'hiver, quand ils étaient en deuxième division, ils se faisaient traiter comme des merdes. Il y a des clubs qui ne sont fondamentalement pas faits pour être au-dessus de leur niveau.
Il faut savoir maîtriser sa raison.
Ce qui est certain, Nico, c'est juste que Bologne, ils ont un modèle de développement qu'ils ont vu, qu'un le directeur technique Sartori connaît bien puisqu'il vient de là-bas, c'est l'Atalanta. Comment l'Atalanta, après ses premières qualifications, a fait en sorte de ne pas exploser en plein vol, c'est qu'ils ont respecté à la lettre
la feuille de route sur plusieurs années.
La feuille de route, exactement. Leur plan de développement sur 5 ans.
Tout à fait. Voilà. Voilà pour ce débat, les amis. On va suivre ça, bien sûr, hein, la Ligue des Champions, la phase de Ligue de Gérone, notamment, de Brest,
Aston Villa, c'est pas un petit club, hein.
Ah non, s'en souvient. Je l'ai sorti, tu vois, la liste, la scène d'Aston Villa, évidemment. Ouais. Polo, tu gardes la main. C'est l'heure de la première minute de la soirée. On envoie la musique, s'il vous plaît.
Peter Maffay, 1970, numéro 1 en Allemagne, d'où toi, évidemment, pour un anniversaire. Donc, je m'appelle Peter Maffay, c'est le Mike Brandt allemand. Hein. Il a été numéro 1 plusieurs fois dans les parades. Ouais, c'est la grande mode d'ailleurs de l'époque. Et je vous conseille l'orchestration, c'est parce que moi, j'aime pas tout à fait ce style de musique, mais l'orchestration derrière avec des véritables orchestres et tout en direct, c'est quand même un truc assez formidable. Pourquoi je vous parlais d'anniversaire. Évidemment, ce week-end, on a fêté les 80 ans de monsieur Günther Netzer, l'un des plus grands footballeurs allemands de tous les temps, l'un des plus grands footballeurs européens et mondiaux. Donc c'est 80 ans et c'est une légende du foot allemand, évidemment. C'est le Borussia Mönchengladbach, évidemment champion du monde, évidemment champion d'Europe. Il a été transféré à l'époque de Mönchengladbach au Real de Madrid, où il a joué notamment avec Brighton,
Polo,
etc. Pardon ?
Pas Real de Madrid, pas toi, Polo. Pas toi.
J'ai dit quoi, le Real ?
Qu'est-ce que t'as dit le Real de Madrid.
Ah non, Real Madrid, pardon, autant pour moi.
Non, c'est et pas possible. D'autres, Madrid. On pourrait. Pas toi. Luis Hernandez, on comprend, mais pas toi, Polo.
Mais je vais me mettre à l'espagnol. Mais là, ce qui est important, si tu veux, c'est. On a par exemple le président de Mönchengladbach, Rainer Bonhof, ancien grand joueur, évidemment, qui a tout raflé aussi. Pour ceux qui s'en souviennent, les anciens, c'est lui qui fait la passe à Gerd Müller pour la victoire contre les Pays-Bas en 1974. Rainer Bonhof, il dit c'est qui Günther Netzer? Et bien, Günther Netzer dit c'est pas compliqué, c'est Toni Kroos en mieux parce qu'il est plus agressif. Et c'est l'équivalent de Moussiala techniquement. Donc vous voyez ce que c'est. Alors Rainer Bonhof, évidemment, Günther Netzer évidemment a fait son interview pour ses 80 ans. Et comme c'est quelqu'un qui a quand même aussi un peu le boulard, il est toujours en train de dire ouais, c'est vrai que j'avais le niveau de Pelé quand même, mais j'avais pas l'ambition pour le faire tous les week-ends, oui, etc. Mais c'était quand même, c'est quelqu'un qui est considéré comme un rebelle en Allemagne parce que il avait ses propres discothèques. Il aimait le cinéma, il aimait les réalisateurs, les auteurs. Et évidemment, le monde du football n'aime pas forcément ça. Et c'est surtout l'un des premiers joueurs, j'ai envie de dire, libéraux, au sens « je suis libre de faire ce que je veux parce que l'oseille est là », etc. Donc c'est Günther Netzer, l'un des plus grands joueurs, évidemment. Puis encore une fois, c'est Mönchengladbach dans les années 70, ça veut dire évidemment quelque chose.
Günther Netzer, voilà, qui est passé par le Real Madrid avec un certain Paul Breitner.
Paul Breitner.
Exactement. Oui. Voilà pour la première minute de la soirée. Si dans un instant, les amis, Polo, tu nous parleras aussi encore du... Ah, c'est maintenant, à partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour jouer et tenter de vivre l'aventure RMC. Vous envoyez Paris pour le match Paris-Gérone, gagner 2 places au 7-32-16. Paris au 7-32-16, vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour gagner ces 2 places pour le premier match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain cette saison. On vient dans un instant au programme le RB Leipzig et surtout le procès du siècle. Que risque Manchester City? Julien nous dit tout dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamin.
Avec Fred Hermel, avec Polo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet, on est ensemble jusqu'à 22h. Tiens, avant d'évoquer, de poursuivre la Ligue des Champions ensemble, il y a un match de Ligue 2 ce soir au Stade des Alpes et sous les yeux d'Edouard G. Bonsoir mon cher Edouard.
Salut Nico, salut à tous. Déjà un but, pour Caen. Alexandre Mendy dès la 4e minute sur un superbe service de Bilal Brahimi qui trouve vraiment le bon intervalle, la bonne passe derrière la défense, dans le dos de la défense grenobloise, et derrière Alexandre Mendy qui va crucifier le gardien Mamadou Diop, le gardien grenoblois. Et ça fait donc 1-0 pour les Canets. D'entrée de jeu, nous étions à la 4e minute.
Jeudi soir, autre affiche de Ligue des Champions, Atlético de Madrid et Leipzig. Leipzig actuel 3e de Bundesliga, dans lequel tu crois pas trop, Polo, cette saison, encore une fois, en Ligue des Champions. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'on a fini la saison dernière, évidemment, en quatrième qualifié pour la nouvelle Ligue des Champions, nouveau format. Et tout le monde disait, oh, il y a vraiment un potentiel dans cette équipe pour faire beaucoup plus. Ça, c'était un peu le bilan après, en fin de saison. Entre temps, évidemment, on a perdu Olmo. Alors, on peut dire qu'Olmo était souvent blessé, mais il est quand même parti. Simakan, que j'adorais, moi, de par sa polyvalence, est parti au dernier moment. Et l'année dernière, on se posait la question, en fait, est-ce qu'il manquait pas deux, trois joueurs dans cette équipe pour essayer de faire quelque chose d'assez extraordinaire? Et Leipzig nous a fait du Leipzig, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher des espoirs, Nusa, Van der Voort, Widrayago, que vous ne connaissez pas encore, qui vient de Schalke, qui est un grand espoir du football allemand, et puis j'en ai oublié un, Vermeeren, qui est justement prêté par l'Atlético de Madrid, cette fois-ci, si je ne me trompe pas, Fred.
Exactement, bravo.
Voilà. Et donc c'est des joueurs de 18, 19, 20 ans maximum. Et en fait, on se rend compte que Leipzig n'a pas forcément de banc, et comme ils ont perdu des joueurs comme Olmo ou Simakan, ça devient un petit peu plus compliqué. Et il y a un autre facteur qui est très compliqué, c'est que n'oublions pas que Leipzig était dans le chapeau 1, mais je ne sais pas si vous avez vu le tirage au sort pour un chapeau 1. Atlético de Madrid, Juve, Liverpool, l'Inter, Aston Villa, les trois plus faciles c'est le Sporting, Sturmgrass et le Celtic. Et le Celtic et Sturmgrass, c'est à l'extérieur. Donc en fait, je me pose la question cette saison, si en Ligue des Champions, la plus grosse surprise, donc déjà finir dans les 8, je pense qu'il faut oublier quant à ce genre de tirage, finir dans les 16, ça va être assez extraordinaire, et je pense que l'objectif va être de finir dans les 24. Et si ça se passe mal, ben Leipzig, le club saxon, pourrait très bien sauter, alors qu'ils sont chapeau 1, tout simplement avec ce nouveau, ce que moi j'appelle la liste de courses, qui est assez terrible. Donc voilà, ce match contre l'Atlético va être évidemment fabuleux à regarder, mais je me pose la question de la stratégie du club saxon, et surtout quand tu fais un tirage comme ça, Atlético, Juve, Liverpool, rien que c'est, tu peux très bien avoir 0 sur 3 en commençant. Donc... ça va être compliqué.
Leipzig orphelin, on le sait, on l'a dit, Denis Olmo, avec un Xavi Simons qui peine à vraiment s'imposer comme un leader offensif à Leipzig.
Et ouais, il est tellement doué. Alors le week-end, alors c'est vrai, tu disais, ils sont troisième, ils ont 7 points sur 9. Tu dis, ben non, c'est pas grave. Sauf que le match contre Borum à la première journée à domicile n'a pas été terrible. Ensuite, ils ont fait un exploit en l'emportant, rappelez-vous, à Leverkusen. C'est quand même assez extraordinaire parce qu'on dit, ben non, là, Polo, tu racontes n'importe quoi. Leipzig l'a emporté à Leverkusen. Ils étaient invaincus depuis 35 matchs. C'est extraordinaire, mais on l'oublie qu'ils ont été dans les corps pendant toute la rencontre et que c'est plus Leverkusen qui perd la rencontre qu'autre chose. Et puis il y a eu ce week-end évidemment 0-0 contre Union où il y a la possession de la balle évidemment pour le club saxon, où ils se baladent sur la rencontre, etc. Mais ils ont une baisse physique très importante et tu le dis, Xavi Simons, c'est un footballeur de rue à la fin. C'est-à-dire que moi j'aimerais qu'il joue en équipe, qu'il fasse les bons choix tout le temps. Alors il va te marquer des buts extraordinaires. Et puis, il rate parfois des choses qui sont assez faciles en ne jouant pas, notamment avec ses coéquipiers. Et je vous parlais de la victoire à Leverkusen, on a cité évidemment Openda. Mais qu'est-ce qu'il nous fait Openda, là? Eh ben, il nous rate le penalty qui aurait dû permettre à Leipzig de l'emporter. Et il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est-à-dire, Sesko, si tu veux, qu'on comparait il y a quelques temps à Haaland, on va dire déjà, c'est Sesko et c'est pas Haaland. Donc c'est pas tout à fait les mêmes choses. Et moi, c'est encore une fois, ce qui me perturbe là-dedans, c'est que, alors qu'on s'attendait à une évolution positive du groupe et à une évolution sur le terrain, eh ben, on se retrouve avec des jeunes qui ne sont pas forcément des alternatives aussi douées soient-ils. Mais tu gagnes pas, tu fais pas des beaux parcours en Ligue des Champions, ça remonte, il faut remonter à Van Gaal et à l'Ajax dans les années 90 avec des gamins de 18 ans, 19 ans si tu vas chercher des gros clubs européens. Donc là, je trouve que c'est intéressant et ça va peut-être questionner la politique de Leipzig qui évidemment va faire de grosses plus-values, mais je pense qu'il manque quand même un petit peu de banc.
Atlético de Madrid, Leipzig jeudi soir avec un bon Griezmann ce week-end contre Valence, on en reparlera évidemment, il était buteur.
Et De Paul aussi.
Mais oui. Et Rodrigo De Paul également, ouais. Excellent. On en parlera jeudi soir de cette rencontre. Deuxième minute de la soirée, elle est italienne. La minute de Johan Crochet, on envoie la musique.
Waouh.
Ah ouais.
Non era il cuore, non era il cuore. Tra la 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 la, tra la la.
Très bien, c'est
la balada dell'amore cieco, la balade de l'amour aveugle. Évidemment, j'étais devant le match du Genoa contre la Roma dimanche, c'était à 12h30. Et quand on voit cette magnifique Radinata Nord, la tribune des ultras du Genoa, on ne peut que penser alors à Tsitsipas qui met des lucarnes en avant-match, ok, mais aussi et surtout à Fabrizio De André, chanteur ultra populaire italien et grand fan du Genoa. Et ce magnifique stade très coloré, très plein aussi, et ben c'est une habitude maintenant en Italie.
des records d'abonnés déjà la saison passée, encore cette saison. Moyenne de spectateurs la plus haute depuis 1997, depuis la saison 97-98 en Serie A. C'est la moyenne de spectateurs par match. Il y a trois clubs italiens dans le top 7 des clubs européens en plus grand nombre de spectateurs cumulés la saison passée en championnat. C'est l'Inter, le Milan et la Roma. Donc, les stades italiens vont très bien. Alors, au niveau de la diffusion, il y a pas mal de pays qui en sont privés de ce spectacle-là. Mais en tout cas, les gens ont envie d'aller au stade, remplissent le stade. Et c'est des bonnes nouvelles déjà pour le spectacle, l'ambiance, les caisses des clubs et pour tous les amoureux du football italien.
Non, mais j'espère, Johan, que tu donneras un jour les tips pour mater les matchs italiens depuis la France, de Serie A notamment.
Mais il y en a toujours beaucoup. Pas, hein. Ça vient pas.
Toujours pas,
hein.
C'est incroyable.
Non, et ça m'étonnerait que ça soit résolu cette saison.
Ça va venir.
Il y a un désespoir.
Sachant qu'il y a Juve et Napoli ce week-end et le derby de Milan, c'est juste pas rien quand même.
Il y a un désespoir sur le chat ou la chaîne de l'After là, de ceux qui ne me voient
mais
plus.
Mais moi, je reçois 50 demandes par jour sur Insta, c'est mais terrible. Je parle à la Ligue italienne tous les deux jours, ça avance pas donc.
Mon Dieu. Voilà. Bon, ce championnat n'est plus manquable visiblement. Voilà, c'est tout.
Ou alors la Ligue est pas très réaliste. C'est marrant, j'ai envie de choisir.
Il y a un moment, la Ligue peut pas dire sans déballer le projet, ben on le donne en.
Non mais c'est surtout que là, en fait, ils font un calcul qui est foireux parce que ils disent on veut plus, mais plus tu avances, moins tu auras déjà sur la première saison, et plus tu avances, moins les gens qui découvrent le foot, les petits jeunes qui suivent un peu le foot depuis cette année, ils voient pas la Serie A. Donc derrière, les années suivantes, ils vont s'en foutre totalement de la Serie A. Ils n'ont pas été habitués à la voir à la télé. Donc c'est un calcul absolument désastreux sur le court et le moyen terme.
Restez avec nous dans un instant. Attention, le gros dossier de ce lundi soir. Manchester City face à la justice. On en parle. Que risquent les Citizens dans les prochaines semaines, prochains mois? Julien Laurence nous dit tout avec les drôles de dames sur RMC. À tout de suite.
RMC.
Si pour ma première saison dans l'After, j'ai deux finales anglo-anglaises en Ligue des Champions. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le monde.
Je souhaite une seule chose. Soit l'Allemagne va au bout, soit elle se fait sortir avant.
Bonsoir.
Alors Johan, bon, t'as l'habitude maintenant.
Merci François. Et ça fera 12 ans sans match de Coupe du Monde.
Salut Zizou. Merci Zizou.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les quatre drôles de dames, Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Armel et Johan Crochet. Dans un instant, dans quelques secondes, on évoque le procès du siècle, comme on l'appelle en Angleterre, le procès contre Manchester City. D'abord le direct, la Ligue 2, ce duel entre Grenoble et le Stade Malherbe de Caen. Édouard G, où en est-on?
Eh bien, toujours au même score à la 18e minute. Et ce but précoce était à la 4e minute d'Alexandre Mendy. Une seule action, un seul tir cadré et un but pour les Canets. Les Grenoblois qui ont essayé de réagir, mais pour l'instant, les Canets font la bonne opération dans cette entame de match. Ils mènent 1-0 à la 18e.
Ce que les Anglais appellent donc le procès du siècle a commencé aujourd'hui. Le procès qui peut détruire l'un des clubs les plus puissants du monde, Manchester City, présumé coupable, mais présumé, de 115 infractions au règlement de la Première Ligue et de l'UEFA. Julien, est-ce que tu peux nous rappeler, je sais que c'est complexe, hein, mais en quelques secondes quand même, pour qu'on comprenne bien, ce qui est reproché à Manchester City sur la période 2009-2018?
Ouais, donc effectivement, 2009-2018, où ils sont soupçonnés d'avoir commis 80 infractions financières, donc en respectant pas, par exemple, le fair play financier anglais ou celui de l'UEFA. Par exemple, ils ont masqué dans leur compte certains salaires, ils ont payé Roberto Mancini, qui était à l'époque leur entraîneur, une partie payée par le club, mais la majeure partie payée par d'autres sponsors d'Abu Dhabi, qui sont aussi dont la famille, dont l'émir est aussi propriétaire. Enfin voilà, ce genre de choses là, en trafiquant un petit peu les comptes, c'est de ça dont ils sont accusés.
Ils ont
aujourd'hui
gonflé,
par la première
ils ont gonflé
Ligue.
Des revenus notamment, c'est ça aussi. Ouais.
Ils ont aussi gonflé des revenus, donc voilà, ils ont fait en fait tout pour pouvoir continuer à dépenser beaucoup d'argent, que l'argent ne vienne pas forcément des revenus habituels, on va dire, d'un club de foot, mais de versements de sponsors amis, on va dire, entre guillemets, ou de compagnies, de sociétés qui étaient simplement détenues aussi par les mêmes propriétaires que le club de Manchester City. Donc voilà, tout ça, ce qui est interdit et par l'UEFA et par la Première Ligue également. Donc 5 ans d'enquête et la Première Ligue qui a renvoyé City devant une commission indépendante qui comptera 3 membres qui va donc se réunir pendant on pense 10 à 12 prochaines semaines. Donc ça, c'est un long procédé encore qui va encore se poursuivre très longtemps. On n'aura pas finalement de réponse, de sanctions, ça va pas se terminer avant
le printemps prochain, c'est ça,
2025.
Ouais, c'est ça.
Voilà, parce que
si City fait appel ensuite, c'est ça peut durer encore plus d'un an cette histoire.
ça durera plus longtemps. Ça peut pas aller devant le tribunal administratif du sport, donc le TAS, qui, alors que l'UEFA avait une première fois condamné Manchester City en 2020, le TAS avait annulé cette condamnation. Donc le TAS peut plus être maintenant. Je sais pas comment on dit.
Ouais, le TAS ne peut plus annuler la sanction, en tout cas, c'est clair.
Voilà.
Bon, ce qui est intéressant,
ça fera que ici en Angleterre.
Il y a beaucoup de fatalistes, ces mecs, tu le dis, Julien, sur le chat, notamment, qui disent, mais City est tellement gros que City ne sera pas pénalisé, City est trop important pour la première ligue. Mais la différence, c'est que la première ligue est déterminée à aller au bout de son enquête et voir à faire tomber City, convaincu des infractions.
Ah oui, tout à fait. Après, il veut pas forcément faire tomber. L'idée, c'est pas forcément
c'est faire respecter City, en tout cas la
simplement,
règle.
Voilà, exactement. Parce qu'à un moment, on a vu des cas beaucoup moins importants et qui étaient clairement aussi différents, d'Everton, de Nottingham Forest, même de Leicester il y a quelques mois encore, de clubs qui avaient trop dépensé d'argent par rapport aux règles du fair play financier ici en Angleterre. Donc le fameux PSR où tu ne peux pas dépenser autant d'argent que tu veux. C'est pas ça marche pas comme ça. Comme un petit peu la DSCG, comme la Liga chez Fred, voilà ce genre de choses là, ce genre de règles là. Et la Premier League veut simplement faire respecter ça. Vu l'ampleur de ce qu'on reproche à Manchester City et pas simplement ces infractions financières là, parce qu'après ce qu'ils ont fait et qui finalement montre dans un sens peut-être aussi leur culpabilité, hein, je sais pas. Du côté du club, on me dit qu'ils sont complètement calmes, ils sont vraiment détendus, ils pensent qu'ils ont rien fait de mal, qu'il y aura aucun problème. Guardiola l'a encore répété aux joueurs ces derniers jours, ils pensent vraiment que il va rien leur arriver, sauf que depuis 2018, ils ont mis beaucoup de temps, par exemple, à envoyer les documents que la Première Ligue demandait et que l'enquête demandait, que les avocats demandaient. Comme par hasard, on va dire, ou comme par coïncidence, beaucoup de documents demandés par la Première Ligue n'existaient plus. Ces documents-là, on les trouvait plus à Manchester City, ils avaient disparu. Donc, c'est aussi une partie de ce qu'on leur reproche aujourd'hui du côté de la Première Ligue, c'est que, en plus donc de ces infractions financières entre guillemets, il y a quand même 35 chefs d'accusation concernant ce manque de coopération, de collaboration, on va dire, de Manchester City avec la Première Ligue. Comme si finalement ils avaient des choses à cacher pendant les 5 années d'enquête et d'investigation. Donc voilà, c'est là où on en est. Il y a eu pas mal de mépris, c'est comme ça qu'on l'a vécu du côté de l'UEFA et de la Première Ligue de la part du club de Manchester City.
J'ai une petite question, mon ami.
Après,
Julien,
il va nous dire qu'est-ce que risque City surtout, c'est important. Vas-y.
Alors justement, c'est un peu ce que je veux demander. Est-ce que cette justice n'est que sportive ou est-ce que la justice ordinaire pourrait s'emparer de cela?
Non, que sportive.
Que sportive.
C'est que sportive. C'est commission. Que un dossier de la Première Ligue contre Manchester City.
C'est la commission indépendante. Hein, les trois personnes ont été choisies par la Première Ligue. Ils mènent des auditions dans un lieu inconnu. C'est dire à quel point c'est important. Ce n'est pas diffusé, ce n'est pas produit, ce n'est pas derrière expliqué ni scripté pour la presse. En tout cas, ça va durer très longtemps. Première sanction, s'il y a, tu le disais Julien, pas avant le printemps 2025. L'appel ensuite, hein, s'il y a sanction qui amènerait cette affaire jusque la fin de l'année prochaine. Qu'est-ce que risque City ? C'est ça qui est important. Julien, le barème des sanctions est très très large.
Oui, parce qu'on n'a jamais eu une affaire pareille en Angleterre. C'est pour ça qu'on l'appelle le procès du siècle. Je sais que dans vos pays, il y a aussi eu des grosses affaires, le Calciopoli, etc. On va pas revenir dessus, où la Juve avait pris très cher, par exemple, pour des choses différentes de ce dont on parle là avec Manchester City. Mais c'est vrai que ça peut aller de retrait de points, bien sûr, à une très très grosse amende, à peut-être une relégation en Championship. Est-ce qu'on peut leur retirer leur titre, notamment de cette période 2009 à 2018? Parce que 2018-2023, ce qu'on leur reproche, c'est ce qu'on a dit, c'est d'avoir freiné un petit peu cette enquête, d'avoir pas vraiment collaboré, coopéré, de pas avoir envoyé de documents. Pour ça, je pense que sur cette période-là, 2018 à 2023, il peut rien leur arriver sportivement, finalement. C'est vraiment sur la période de 2009 à 2018 où là, je pense que ce serait possible, comme on l'a fait avec la Juve, par exemple, en Italie, j'imagine, de retirer les titres remportés à ce moment-là, parce que si on les accuse d'avoir triché dans ces années-là, d'avoir gonflé leurs revenus, d'avoir triché sur les paiements, les salaires de joueurs, les salaires d'entraîneurs, ce genre de choses-là, c'est aussi possible que la Première Ligue décide de retirer ces titres-là, je sais pas. Donc, en fait, on sait pas, on peut dire toutes ces choses-là. Bien sûr, ça peut arriver, il y a un éventail assez élargi, finalement. Est-ce que des gens qui sont donc, mais moi, je veux pas non plus accabler Manchester City aujourd'hui. Pour l'instant, il y a la présomption d'innocence. Eux disent qu'ils n'ont rien fait de mal, on peut tout à fait les croire.
Eux, ils sont convaincus.
Et on verra bien ce qu'au final, la commission va dire. Mais c'est vrai, comme on n'a jamais été dans ce cas-là, Polo, on sait pas finalement. Peut-être que des gens seraient déçus si c'était simplement une grosse amende. Ça, c'est sûr qu'en Angleterre, on a ce sentiment-là actuellement.
Polo, je précise que City dit avoir en main des preuves irréfutables, qu'ils n'ont pas fauté pendant ces 9 années-là. Et je dis aussi, pour compléter ce que dit Julien, que s'il y a sanction, ça pourrait pousser d'autres clubs anglais qui s'estimeraient lésés pendant ces 9 années-là à engager des poursuites contre City. Alors, Polo, vas-y.
Moi, j'ai deux questions. La première, le chat, tu me dis que City est trop gros, ils vont s'en sortir et ceci et cela. Moi, je dirais l'effet inverse. Est-ce qu'en Angleterre, un club comme Manchester City et son propriétaire sont acceptés, j'ai envie de dire, par la majorité des personnes où il y aurait une forme de revanche, entre guillemets? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, il se fait que chaque année, tu le sais, Julien, le Guardian sort les comptes des clubs anglais, qu'à chaque fois que je les regarde, je me dis, ben, c'est à peu près l'état de la France aujourd'hui. Donc, j'ai peur à chaque fois quand je vois l'endettement des clubs par rapport à leurs propriétaires et ceci et cela, que Nottingham Forest me choque beaucoup plus, par exemple, que ce qui se passe à Manchester City. Et j'ai peur que ce procès du siècle, qui doit forcément ne pas accoucher d'une souris, sinon pourquoi c'est un procès du siècle, ce soit pas ce que j'appelle le syndrome Lance Armstrong, c'est-à-dire que, hop! On va enlever les titres du mec qui est dopé, que tout le monde savait qu'il est dopé, et puis tous les autres, ils font ce qu'ils veulent. Donc si tu veux, si on refaisait l'histoire du football européen des clubs, je pense qu'on peut enlever à 90% les Coupes d'Europe qu'ils ont gagnées, etc., par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est mes deux questions. La première, est-ce qu'on a envie de se taper Manchester City? Et la deuxième, est-ce que si City était condamné, ça permettrait pas tranquillement aux autres de s'adapter? Alors que quand même, quand je vois ce qui se passe parfois, encore une fois, je fais référence à ce qui fait le Guardian, finalement, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. L'ambulance.
Si, t'as un petit peu raison. Oui, mais je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Après, je sais pas. Après, c'est compliqué à dire. Encore une fois, on n'a jamais été dans cette position-là. Personne, c'est jamais arrivé. On n'a jamais vu des choses pareilles. On n'avait jamais connu non plus avant Manchester City et Abu Dhabi ce genre de propriétaire avec cet argent-là. Avant, ça avait jamais vraiment était comme ça. Donc ça aussi c'est pareil. Oui, est-ce que City a dérangé un moment? Je pense que oui, sûrement. Ils ont quand même beaucoup bousculé l'ordre établi déjà avant, des Liverpool, des Manchester United, et voire même du Chelsea d'Abramovich, qui lui déjà avait beaucoup dérangé avant à l'arrivée d'Abramovich. Donc oui, peut-être. Je pense que tu as raison. Après, faut pas oublier non plus que donc pendant cette période-là de 2009 à 2018, les règles du fair play financier comme on les connaît aujourd'hui n'existait pas vraiment finalement. C'était pas on n'avait pas encore le barème comme on l'a aujourd'hui à respecter tes dépenses par rapport à ce que tu gagnes, par rapport à ta masse salariale, ce genre de choses là n'existait pas vraiment à cette époque là d'ailleurs, c'était des grosses dépenses, tu faisais pas vraiment attention. Là, c'est beaucoup plus strict maintenant. Et je pense que ça aussi peut-être a joué au moment où City, entre 2009 et 2018, a donc fait toutes ces infractions supposées. C'est ça aujourd'hui, ce serait plus possible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils le font pas. Ils vendent très, très bien. Ils achètent moins qu'avant aussi. Parce qu'ils savent très bien qu'il faut bien rester dans les clous et il faut bien respecter toutes ces règles-là. Donc, je sais pas, je pense que les choses ont beaucoup changé. 2009, c'est il y a très longtemps. T'as l'impression que il y a une autre vie finalement, quasiment pour Manchester City. Donc c'est ça qui est un petit peu bizarre finalement, c'est qu'on est en 2024 et on sera en 2025 et on parlera de choses qui sont arrivées en 2009, en 2010. On n'aurait jamais dû attendre si longtemps finalement. Et au final, c'est ça, c'est un procès décalé qui est un procès du siècle, mais qui a une période qui finalement paraît tellement tellement lointaine.
Bon, et Guardiola a dit qu'il était enfin content que ça démarre, que ce procès démarre. Il était impatient qu'on avance sur ce terrain-là.
Bonne question, Wanker0494 qui dit « Et le Real et le Barça, jamais inquiété ?» Mais pour une raison très simple, c'est que la structure même associative du Real et Barça évite ce genre de problème, puisque de part, il n'y a pas un propriétaire au Barça, il y en a 100 000, c'est les 100 000 socios. Il n'y a pas un propriétaire au Real, c'est 80 000 socios qui sont les propriétaires du Real. Donc en fait, il ne peut pas y avoir d'acquaintance entre un copain du propriétaire qui, comme l'a très bien expliqué Julien, arrive comme un sponsor surcoté, parce qu'en fait, il n'y a pas de propriétaire au Real. Voilà, donc c'est quelque chose qui intrinsèquement ne peut pas leur arriver.
Mais justement, le Real, on en parle dans un instant. Merci Julien pour toutes ces explications. On va suivre ça avec attention, même si on l'a compris, c'est un procès au très long cours. On n'aura pas les sanctions avant le printemps 2025 et les sanctions définitives éventuellement avant la fin d'année prochaine. Dans un instant, le Real Madrid, bien sûr, qui va lancer sa Ligue des Champions. Et puis, la Roma va-t-elle vivre une saison cauchemar? On en parle aussi avec Johan. Vous écoutez RMC, vous écoutez. Et Drôle de Dame, on revient dans quelques secondes. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After. Nicolas Jamain.
Avec les 4 drôles de dames, on est ensemble jusqu'à 22h. N'hésitez pas à faire le 32-16. Appelez, posez vos questions à Fred, Polo et Julien. Et Johan, ce sera à 21h45 pour le quart d'heure des auditeurs. D'abord le direct, la Ligue 2, Grenoble, Caen, Édouard G.
On a dépassé la demi-heure de jeu. C'est toujours Caen qui est devant grâce à ce but de la 4e minute d'Alexandre Mendy. Mais les Canets qui plient, qui ne rompent pas. Mais pour l'instant, ça s'est joué à très très peu de choses, notamment un sauvetage sur la ligne de Lorenzo Rajo sur une belle tête de Rigaud, le grenoblois. Mais voilà, pour l'instant, la défense canaise fait l'essentiel, c'est-à-dire résiste à toutes les tentations de céder, puisque les grenoblois multiplient les actions, mais pour l'instant en vain. 1-0 donc pour Caen, la 34e.
On fait une pause dans le programme Ligue des Champions. On va parler de la Serie A avec Johan qui voulait évoquer le cas de la Roma, début de saison qui annonce peut-être un gros crash industriel. On n'en est pas encore là, mais il faut rappeler, Johan, 90 millions d'euros dépensés cet été. Un mois plus tard, la Roma, c'est une défaite, 3 nuls, 16e de Serie A. J'allais dire, de manière un peu provoque, l'air Florent Ghisolfi débute mal, très mal.
Oui, alors c'est que le début, évidemment. Il n'y a toujours pas de victoire après 4 journées. Il y a seulement 2 buts marqués. Il y a 90 millions d'euros, tu l'as expliqué. Et on peut monter à un peu plus de 100 millions d'euros avec l'option d'achat de Manu Koné. Donc on sera sans doute aux alentours de 105, 110 millions d'euros d'investissement. Donc c'est pas rien pour un club qui n'accroche plus la Ligue des Champions depuis maintenant plusieurs saisons, et beaucoup trop de saisons d'ailleurs. Et effectivement, en plus, ce qui est inquiétant, c'est que le calendrier était vraiment favorable à la Roma, parce que tu as joué Cagliari, Empoli et le Genoa. Alors la Juve, évidemment, c'était un choc, mais sinon le calendrier était vraiment abordable par rapport à d'autres gros de ce championnat-là. Que l'investissement, il est évidemment massif, que Dan Friedkin s'attend à, évidemment, et c'est logique vu l'investissement, à retrouver le top 4 de Serie A ou top 5, on verra comment ça va se passer au niveau des résultats européens, et donc retrouver la Ligue des Champions, parce que c'est évidemment des recettes très très importante pour des propriétaires de clubs aujourd'hui. Sur ce match-là, il y a une première mi-temps qui est plutôt de qualité, où Dovbyk a pas mal d'occasions et il rate vraiment vraiment des grosses occasions, même s'il marque son premier but. Et la deuxième mi-temps, par contre, elle est affreuse. Elle est digne des mi-temps de Mourinho. C'est tout le monde derrière. Même s'il arrive encore à te créer deux belles occasions en transition ou sur des actions individuelles, Mais c'est pas possible. Et il y a même des choix de De Rossi qui commencent un peu à poser question, parce que le fait que Soulé était sur le banc pendant 90 minutes, on a du mal à comprendre, alors que tu devais faire le forcing pour remporter ce match-là. Ou alors que, comme la Roma subissait beaucoup, avoir un joueur plus haut, qui est certes pas une tour, mais qui est capable de prendre le ballon, de dribbler 3 joueurs, d'accélérer, de faire remonter tout le bloc, c'est quand même utile. Il a beaucoup changé d'un match à l'autre depuis le début de la saison. Il semble chercher la bonne ou la belle formule, mais ça marche pas trop entre défense à 3, défense à 4, mais on construit à 3 aussi derrière avec un milieu qui s'insère, ou c'est un latéral qui vient comme troisième défenseur central. Les changements ont été catastrophiques à Gênes, donc il y avait vraiment pas grand chose pour cette Roma-là sur la pelouse du Genoa, avec en plus un capitaine Pellegrini qui est vraiment très très grosse difficulté sur ce début de saison, qui ne parvient pas à être décisif, qui est lent, qui est à court de créativité, lui qui est un des joueurs les plus créatifs. Et au final, avec un milieu de terrain qui a été un peu révolutionné, puisque tu as fait venir Koné, tu as fait venir Lefebvre, le seul milieu de terrain indispensable aujourd'hui à la Roma, c'est un gamin de 19 ans, formé au club, Pizzilli, qui t'a rien coûté. Et c'est quand même un peu problématique au milieu des, j'ai cité Koné et Lefebvre qui ont été recrutés, mais il y a aussi quand même Paredes, Pellegrini, Cristante. Donc il y a des joueurs expérimentés. Il y a clairement obligation, même plus qu'objectif, de faire top 4. Et t'es déjà, au bout de 4 journées, avec un calendrier favorable, à 3 points de l'Atalanta, à 5 points de la Juve et de l'Inter, et à 6 du Napoli. Donc, les prestations sont pas bonnes. Il y a un entraîneur qui semble un peu, je vais pas dire perdu parce que ce serait beaucoup trop fort, mais qui cherche vraiment la bonne formule. Des joueurs individuellement qui sont en dedans, des joueurs qui sont à court de préparation physique comme Hummels et Hermoso, mais ça on en revient au mercato. Comment tu peux boucler ton mercato avec deux défenseurs centraux en prenant Hermoso et Hummels après la fin du mercato, puisque c'était des joueurs libres, alors que ça fait 3 mois qu'ils s'entraînent pas avec un groupe? Ah, tu sais très bien qu'il leur faudra du temps, il leur faudra au minimum un mois pour être au niveau physique. Et Hermoso, quand il est entré sur le bout du Genoa, il était mais à l'OS total, parce qu'il a pas la caisse. Il a fait une accélération, il prend le ballon, il accélère sur 60 mètres pour refaire les 50 mètres dans l'autre sens, mais c'était dramatique.
Donc, Johan, Est-ce que Kessel Fee est critiqué déjà ou pas pour l'instant? Est-ce qu'il est épargné parce que c'est que le début?
Non, pas encore, parce que on voit bien qu'il y a des joueurs qui ont été recrutés, qui sont intéressants, les Manu Koné, Soulé, Dovbyk, c'est des joueurs intéressants, qui en plus, pour certains, pas pour tous, mais Koné, Dovbyk étaient aussi des requêtes de Daniele De Rossi. Après, ça va vite devenir compliqué aussi un Lefebvre qui est blessé, qui ne parvient pas à s'imposer, qui a été payé quand même 23 millions d'euros alors qu'il a été payé plus cher que lorsqu'il a quitté Lorient pour Rennes avec une saison ratée, que le choix des deux défenseurs centraux libres de tout contrat qui s'entraînent pas depuis 3 mois avec un groupe, il faudra faire attention à voir s'ils arrivent à obtenir un pic de forme ou pas. Donc ça peut vite aussi se transformer un peu en critique pour Gisolfi, pour Soulouku, la CEO du club. Pour le moment, on n'en est pas encore là, mais attention, il y a vraiment être à 5 points de la Juve et de l'Inter et à 6 du Napoli après 4 journées avec un calendrier favorable, c'est déjà beaucoup, c'est même déjà beaucoup trop.
Et avant de jouer l'Udinese, ce sera dimanche, hein, la Roma qui sera l'Udinese qui lancera sa saison européenne contre l'Athletic Bilbao. Ce sera en Ligue Europa.
Si c'est tellement dur, Gisolfi, la vie loin de Lens.
Eh oui. Il vit à Rome, le garçon, quand même.
C'est pas mal.
Sincèrement, mon cher Polo, j'aime beaucoup nos amis lensois, mais entre Lens et Rome, je crois que j'hésite pas un quart de seconde, évidemment. Évidemment. Voilà. Polo, chez toi, les deux promus sont déjà derniers. Saint-Pauli et Holstein Kiel, qu'on connaît plus pour le handball, d'ailleurs.
Alors, ça ressemble
à une fatalité, chez toi encore plus, peut-être. Les promus sont quasiment toujours condamnés à la relégation. Je sais pas comment tu l'expliques.
Écoute, il y a l'année dernière, j'avais regardé ce qui s'était passé sur les 10-15 dernières années, et en fait, on se rend compte que au bout de 2 ans, 70% en gros des clubs qui sont montés redescendent directement. C'est pour ça que Union Berlin est un exploit par rapport à ce qui se passe, ou Heidenheim par rapport à son modèle. Mais il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Déjà, c'est le niveau, et on le dit souvent, c'est 18 clubs. En début de saison, je vous parlais du niveau de la deuxième division avec Hambourg, Schalke et Fortuna, Hanovre, ce que vous voulez. Et pour monter, c'est compliqué, mais pour rester dans un championnat à 80 millions de personnes d'habitants à 18 clubs, c'est encore plus dur. Et il y a un phénomène qui se passe depuis quelques années. Si on prend le club de St. Pauli, par exemple, ils sont montés 3 fois depuis les années 2000, ils sont descendus les 2 premières fois, ils sont redescendus tout de suite. Si vous prenez Greuther Fürth il y a 2 ans, ils sont redescendus. Si vous voyez Holstein Kiel, moi on me dit, mais alors ils vont rester? Non. Puis en plus, il y a un nouveau phénomène, ça, que j'ai oublié d'expliquer, c'est que les meilleurs joueurs de chaque équipe partent lors du mercato de la montée. Non, mais ça n'existait pas forcément avant. Tu vois, Heidenheim a gardé ses meilleurs joueurs, l'année dernière, et c'est cette saison où toute l'attaque est partie. Union Berlin avait réussi à garder ses meilleurs joueurs aussi. Là, Sander à qui il est parti, ils ont même perdu à St. Pauli leur entraîneur Holtzeller qui est parti en première ligue. Tu peux rajouter Borum qui a 0 sur 3, qui s'était sauvé l'année dernière d'une façon extraordinaire lors des barrages, puisqu'ils avaient perdu 3-0 à domicile avant de l'emporter 3-0 Fortuna Düsseldorf et se qualifier au penalty. Et en fait, on se pose la question si c'est vraiment intéressant de monter, mais pourquoi faire? Et en fait, encore une fois, moi j'ai ce débat, et je suis d'accord avec Fred, j'aime beaucoup les championnats à 18 clubs, mais ça dépend de la densité de ton pays. Autant je m'exclave lorsque je vois le Portugal avec 18 clubs par rapport au nombre de population au Portugal, autant en Allemagne, 18 clubs lorsque tu as plus de 80 millions d'habitants, ça fait bizarre. Et donc, un club qui monte, et c'est ce qu'on appelle les clubs surprises, en fait, qui montent, tout le monde s'emballe, c'est génial, vous jouez super bien, blablabla. Et dès qu'ils sont, évidemment, Holstein Kiel s'est pris un 6-1 face au Bayern ce week-end avec un triplé, notamment d'Harry Kane et un Moussiala qui a été extraordinaire. Ça fait bizarre. Et ça, c'est retour sur terre. Et je trouve ça intéressant de se dire, mais, et on parlait des modèles, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en Ligue des Champions, mais c'est pareil, que faut-il faire lorsqu'on est des petits clubs, entre guillemets, qu'on arrive à monter en Bundesliga, et on se prend des raclées, et on est déjà en fond de cale dès le début de championnat.
On va suivre ça, la saison de St. Pauli et Holstein Kiel, que beaucoup découvrent cette saison.
Le club le plus au nord d'Europe.
D'Europe, comment ça?
Le plus au nord d'Allemagne, excusez-moi. Et le Schleswig-Holstein, pour la première fois, un représentant en Bundesliga, le Land.
La troisième minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, s'il vous plaît. Mais d'abord, attends la musique. Le direct, égalisation de Grenoble, Edouard G.
Oui, sur un pénalty tout à fait logique pour une faute de Quentin Kuech, le Kuech dans la surface de réparation qui va tacler Pierre Paquier au final. Le pénalty transformé contre-pied parfait pour Pape Mesaba et ça fait un partout à la 42e minute et c'est tout à fait logique, même si ça se fait sur un coup de pied arrêté. Un partout donc, et il reste 2 minutes dans cette première période.
La musique espagnole, c'est parti, c'est pour Fredo. Ça te ressemble pas.
Ouais, c'est de la daube. C'est la première fois que je mets de la daube.
Mais tu aimes cette daube ?
Non, c'est Aitana, jeune chanteuse espagnole qui est devenue célèbre parce qu'elle avait fait l'Operación Triunfo, le The Voice espagnol il y a une dizaine d'années. C'est de la daube, mais c'est la chanson qu'il fallait pour le sujet que je vais traiter, puisqu'elle avait prévu deux concerts, deux méga concerts au Bernabéu en décembre. Elle remplit des stades, hein. C'est une chanteuse hyper connue en Espagne. Sauf que ces concerts-là, comme tous ceux qui étaient prévus d'ici là, sont annulés pour les prochains mois. Ils sont annulés pour une raison très simple, c'est que le Bernabéu est un stade urbain. Il y a des gens qui habitent autour et qu'ils n'en peuvent plus. Ça fait un bruit pas possible. Moi, j'habitais à l'époque pas très très loin du Bernabéu et on l'entendait très fort. Alors ceux qui sont juste à côté... Parce que vous avez des immeubles qui sont à 10 mètres du Bernabéu. Enfin, vraiment, on traverse la rue et donc les gens, il y a eu beaucoup de plaintes. Il faut reconnaître que c'est un gros problème pour le Real. Parce que le Real compte sur ces concerts-là. Parce que le Bernabéu n'est plus un stade de foot. C'est un stade de foot. C'est un stade d'événements et de sport et de musique. Et de, voilà, c'est un lieu pour les loisirs. Sauf qu'on a l'impression qu'il y a peut-être une petite erreur de conception. C'est-à-dire que le son passe partout. Ils ont essayé de mettre des espèces de bâches spéciales, etc. Ça n'arrange pas. Et face aux plaintes des voisins, ils sont obligés de suspendre ça. Donc c'est un gros problème de revenus. Parce que
énorme.
C'est un gros, gros problème dans les prochains mois. Et on se demande s'il ne va pas y avoir devoir faire de nouveaux travaux pour que ce soit
un minimum
pour les gens. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'il y a des concerts tous les 15 jours, quoi. Donc pour les gens, quand il y a un match, bon, il y a un match, ça va, c'est bon. Mais là,
c'est un gros manque à gagner pour le Real.
Et là, donc il y a eu une grosse, grosse histoire, et on en parle beaucoup cette semaine, ces derniers jours à Madrid, parce que finalement, et moi je peux comprendre les voisins, hein, voilà. Donc
c'est fort, hein, une bande de riverains qui s'oppose au Real Madrid et qui gagne à l'arrivée.
Ouais, mais ça commençait à faire du bruit au niveau politique, etc. Et le Real est un club qui veut bien s'entendre avec tout le monde. Donc voilà, le Real suspend les concerts, donc on ne pourra pas écouter cette jeune demoiselle Aitana au mois de décembre à Bernabéu.
Voilà pour la minute de Fred. Quel dommage. Grenoble-Caen, encore un but, Edouard G, rapidement.
J'ai failli troubler Fred, mais il était tellement bon dans ça. Dans son histoire, Grenoble a renversé totalement la vapeur avec ce pénalty tout à l'heure que je vous ai compté. Et derrière, eh bien, 2 minutes après, Pape Mesaba sur une offrande d'un de ses coéquipiers, Pierre Paquier, en l'occurrence, après une perte de balle vers les 18 mètres, est allé donc mettre le deuxième but. Et ça fait 2-1 donc, désormais à quelques secondes de la fin de cette première période, 2-1 pour Grenoble.
Dans un instant, Fred, t'as encore la parole. On parle du Real Madrid, hein, qui fait son entrée en lice, bien sûr, cette semaine, après un match encore poussif, vainqueur mais poussif, ce week-end. Reste avec nous, les drôles de dames sont sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Polo, Julien, Johan et Fred, on est ensemble jusqu'à 22h et dans 10 minutes, vous avez la parole, vous appelez le 32-16, vous posez vos questions aux 4 drôles de dames. Demain soir, Ligue des Champions, Real Madrid, VFB Stuttgart. Comment on dit, Polo ? Je dis VFB. VOFB ?
Faux FB.
Stuttgart. Le Real en prendrait bien une 16e, mon cher Fredo.
Ah, mais ils sont toujours prêts pour ça. Couronne. D'ailleurs, ma chronique demain d'Ora, c'est, je parle de la thérapie continentale. C'est-à-dire que le Real, quand ça va pas, ça arrive souvent que le Real démarre mal sa saison, puis arrive la Ligue des Champions, et puis après, ça, ils se mettent en route. Bon, la vraie raison du Real commence quand il y a le premier match de Ligue des Champions.
Parce que c'est vrai que c'est moche.
Ah, c'est
Fred.
Pas beau. Ah, c'est moche.
Sociedad, Real Madrid. Bon, il y a victoire au bout, hein, évidemment.
Alors, ils ont de la chance. Ils ont de la chance pour une raison.
Avec Vinicius qui marque, Mbappé qui marque aussi.
Oui, deux pénaltys. Maintenant, c'est clair, l'ordre. Mbappé prend le pénalty, celui d'après.
C'est clair, ça, c'est pas une alternance de deux pour toi, deux pour moi.
C'est 1-1. Non, de toute façon, on a vu.
C'est clair, voilà.
Parce que le Real a eu bénéficié de deux pénaltys. Alors, la Real Sociedad qui a fait un bon match, qui a vraiment bousculé le Real, a touché 3 fois les montants, dont quasiment l'intérieur de l'arête. Enfin, franchement, c'est hallucinant que ça rentre pas. Donc, mais le Real, après les deux pénaltys sont clairs, a su profiter de ce. du manque de chance de la Real Sociedad, mais le Real était vraiment parti pour une défaite. Hein. Je veux dire, c'est une équipe qui survit grâce à quoi ? Grâce au talent individuel et à des à-coups, mais on sent que collectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors moi, je voulais pas faire partie de ceux qui disaient, après les deux premiers matchs, il y a plus Toni Kroos, mais je suis quand même obligé de dire aujourd'hui, il y a plus Toni Kroos. Il y a plus de directeur de jeu. Mais c'est pas un numéro 10 qui manque. C'est un joueur, c'est un joueur un peu derrière, qui a toujours une vision de jeu un peu
périphérique.
Et puis surtout les grandes transversales de 30, de 35 mètres de Toni Kroos, ces ouvertures fabuleuses qui aèrent le jeu, on les a pas là aujourd'hui. Et donc, ce Real est très poussif, ce Real ne fonctionne pas. Après, on va pas l'enterrer parce que ça arrivait tellement de fois, puis finalement il gagne la Ligue des Champions et il gagne les gars. Donc, mais là, on est obligé de commenter ce qu'on voit. C'est un Real très moche depuis le début de cette saison.
Bon, c'était quand même pas très très beau la saison dernière non plus. Hein. Excuse-moi.
Oui, mais enfin ça jusqu'au bout. Oui, mais ça jouait collectivement. Non, attends, pas très bon. Enfin, ça jouait collectivement. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je suis obligé de le dire, et c'est la une de AS. Le meilleur, ça a été Kylian Mbappé, mais sans aucun doute.
Vraiment ?
Vraiment. Mais c'est la une de AS encore aujourd'hui, en disant, parce qu'il a une du lendemain, et la une d'après d'analyse qui arrive deux jours après, franchement, Mbappé, il a été salué par tout le monde. Dans une équipe très mauvaise, il a réussi à faire un très bon match. Et il a montré quelques gestes qui montrent qu'il est en confiance. Tu vois, il tente des choses qu'on n'avait pas vues à Paris en équipe de France ces derniers mois. Donc, ça continue à s'améliorer. Ça continue à s'améliorer. Donc, et la relation avec Vinicius, elle est très bonne. Voilà, ils se répartissent les pénalties. Vinicius va pas bien. Vinicius a encore eu des problèmes avec le public, etc. Il tombe toujours dans le piège. Il y a des joueurs qui ne sont pas à leur niveau et qui ne sont pas bien dans l'histoire encore pour l'instant. Après, il y a plein de blessés aussi. Hein, ça, c'est toujours le problème. Mais voilà, je ne suis pas inquiet pour le Real parce que j'ai vu cette histoire plein de fois. Mais il y a un problème qu'Ancelotti de distribution de jeu, de vision du jeu, qu'Ancelotti n'a toujours pas réussi à régler.
De tempo à dicter, quoi. Bah, tu vois, on le dit. Ouais, ça manque d'un Rabiot, peut-être. Bon, Rabiot n'est pas Toni Kroos.
Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Toni Kroos,
franchement, c'était une belle option pour le Real.
Mais Bellingham va revenir dans quelques semaines
là aussi,
dans un rôle différent.
Oui, parce que Bellingham, aujourd'hui, avec quand il y a les trois devant, etc., il est un petit peu moins offensif que l'an dernier. Donc, il faut voir ça aussi. Mais aujourd'hui, il y a un trou au milieu. Ça, c'est
Polo, le VfB Stuttgart qui a enfin gagné, enfin, après trois journées, hein, victoire ce week-end sur la pelouse de Gladbach, 3-1, doublé de Demirovic, notamment, avec un très bon Deniz Undav. Que peut-il faire, que peut-il espérer contre ce Real Madrid ?
Bah rien, mais on s'en fiche en fait.
Oui.
Parce qu'on va avoir des effets pervers. Non, mais en fait, on va avoir les effets pervers de ce nouveau système. Je vous parle depuis le début de la liste de courses que vous avez. Si Stuttgart se prend 4-0 à Bernabeu, eh ben ils seront engueulés par la presse, ça va durer 48 heures. Mais ce qui est important, c'est de gagner, c'est d'être dans les 24 à la fin des 8 journées. C'est-à-dire qu'on va avoir des effets très pervers, on va s'en rendre compte au fur et à mesure que la compétition va avancer. Et plus les années vont passer, et encore une fois, moi je suis un adepte de du système suisse à ce niveau-là, la différence qu'on a avec les échecs, c'est qu'on sait notre adversaire dès le lendemain, au jour le jour, et non pas une liste comme ça. Et on va se rendre compte que faire un exploit finalement à Bernabeu, est-ce que ça va être aussi important que ce qu'avait réalisé Stuttgart il y a quelques années dans les phases de groupe où ils avaient battu le Manchester, le grand Manchester de Ferguson? Non, pas du tout. En fait, il faut que tu raisonnes, tu peux pas raisonner comme ça. C'est-à-dire que faire un exploit, prendre le point à Bernabeu et t'incliner à domicile face au Sparta de Prague, bah, tu te fais avoir parce que t'es un système de classement où tu dois être dans les 24.
Ah, bien sûr.
Donc c'est pas grave de se prendre un 4-0 à Real à partir du moment où tu gagnes un 0 sur penalty la 93e contre le Sparta de Prague. Et là, on va avoir les effets pervers. On va s'en rendre compte au fur et à mesure. Vous allez voir que les journalistes vont commencer à travailler la question parce qu'ils vont avoir l'expérience de ce qui va se passer. Et en fait, jouer à Bernabeu, le pire des choses possibles, jouer contre le Real à l'extérieur, c'est moins pire dans le nouveau système que de jouer le Real à domicile, par exemple, où il faut marquer les trois points.
Exactement.
Je
ne
sais pas si je me fais.
C'est ça qu'il n'y a pas match aller retour. Perdre à Bernabeu, c'est normal, mais perdre chez soi, c'est un problème. Normal.
Tu grilles une cartouche qui n'était pas la cartouche prioritaire, quoi. Exactement.
Voilà,
quoi.
C'est exactement ça.
Bon, Stuttgart qui jouera aussi le Sparta Prague, qui jouera la Juve, des Champions.
La Talenta, l'Étoile Rouge, Young Boys, Slovan Bratislava, et ils finiront à domicile face au PSG.
Il a tout en tête. Ou alors il a noté, ou alors il a vraiment préparé son émission du lundi soir, Polo.
Bravo. Toujours fou.
Il est à fond pour le. C'est excitant, Polo, avec des champions.
Depuis le début de saison.
Ça vous excite ou pas, d'ailleurs?
Depuis le début de saison,
je suis à fond. Qui revient, les gars.
Non.
Je sens pas hyper enthousiaste. Bah, là,
on
je
comprend
sais
pas le système. Bah, ce système-là,
bah, si, c'est très clair le système.
Non, mais il n'est pas clair.
Ah,
non,
c'est facile à comprendre.
Mais c'est facile à comprendre, mais c'est pas clair.
C'est un championnat.
Ben oui,
c'est un championnat.
C'est une sorte de super league.
Je joue 8 équipes sur.
Mais on s'en fiche comment tu l'appelles. C'est un championnat.
Non, mais c'est un championnat. Tout est fait pour qu'il y ait aucune surprise pour les gros. Voilà. Tous les gros vont y être.
Enfin, c'est pas nouveau, Fred. Enfin,
ah non, mais, non, mais fait... attends, il y a trois ans,
ça
le Barça.
Fait un quart de siècle que c'est comme
le Barça,
ça. Quoi,
pendant deux saisons de suite, ne s'est pas qualifié pour pour les huitièmes de Ligue des Champions. Oui. Dans ce système-là, le Barça, il y a 3-4 ans, se qualifiait.
Mais non, pas mais forcément. Fait, il y a des play-offs en 32e de finale, en 16e de finale pour aller en 8e de finale. Là, c'est pas sûr.
Non, ce qui est très important, c'est qu'en fait, on ne devrait plus raisonner nationalement. On devrait se regarder les clubs qui vont être en difficulté. Je crois que je parle sous le contrôle de Johan. Je crois que Bologne a un tirage qui est très compliqué.
Ouais,
je crois
dit,
que le Sporting de Lisbonne est très compliqué aussi. Et en fait, pour se qualifier dans les 24, bah, va falloir que tu t'arraches, quoi. Et ta liste de courses, comme je dis, c'est OK. Si j'ai trois matchs à domicile entre guillemets facile sur les quatre, ça va passer tranquille pour les 24. Oui. Par contre, si t'es un gros et que tu joues ce genre de rencontre ou que tu dois aller chercher tes points comme Leipzig au Celtic et la dernière journée à Grasse, alors que les clubs autrichiens supportent pas les Allemands, c'est beaucoup plus compliqué. Non, mais il va y avoir des effets pervers, on va s'en rendre compte. Mais de toute façon, aucun système n'est parfait. Donc, on ne peut pas dire, ah ben non, ça s'est mieux avant, ceci et cela. Pour moi, le système de groupe, de phase de groupe, était complètement obsolète parce que l'évolution des chiffres d'affaires de tous les grands clubs, l'arrivée des mécènes font qu'on avait quasiment toujours les mêmes en 8e de finale. Mais là, on va se rendre compte qu'il y a aussi des effets pervers. Par contre, t'es à Leipzig, t'es à la place de Bologne, et ben tu vas t'éclater parce que t'as des superbes affiches. Maintenant, ça va peut-être pas intéresser le grand public. Mmh. Et c'est dommage parce qu'il faudrait absolument que le grand public regarde les matchs de Bologne. Encore une fois, je parle sous le contrôle de Johan, je crois qu'ils ont
Liverpool, Monaco, Dortmund, Aston Villa notamment, tu vois. Voilà.
Bah ouais, c'est
et puis Lille, Benfica aussi, Shakhtar.
Bah ouais, voilà. C'est super compliqué. Quoi.
Bien sûr.
Faut y aller, hein, écoute,
ça démarre demain soir, les amis, dès 18h45 voilà. D'ailleurs, hein, pour les premières affiches avec la Juve qui joue dès demain soir, mon cher Johan, hein, c'est bien ça.
Oui, exactement. Mais moi, juste sur un club comme Stuttgart, et on pourrait l'élargir à d'autres clubs, y compris chez moi, ce que disait Polo, l'essentiel, c'est d'être dans les 24. C'est déjà quand même plus ou moins le cas dans la phase de groupe d'avant. C'est-à-dire être dans les trois premiers pour au pire être versé en Europa League. Donc là-dessus, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Par contre, là où je suis d'accord avec Polo, c'est que le poids des matchs est différent. Notamment parce que si tu tombes dans le groupe du Real, tu les jouais deux fois. Et là, si tu joues le Real, tu le joues qu'une seule fois. Donc le poids du gros choc est différent. Après, moi, très sincèrement, je suis assez emballé parce que je pense que ça va nous donner des matchs qu'on a peu vus ces dernières années.
Des affiches.
Des affrontements qu'on a peu vus.
Bah oui, moi, j'ai un peu ras le bol
d'avoir tous les ans un peu les mêmes affiches. Même s'il y en a qui
vont venir. Qu'on verra que ça n'aura aucune conséquence sur le résultat final, ou très peu.
Parce qu'avant, quand dans un groupe, tu tirais un troisième compliqué, tu pouvais passer à la trappe alors que tu es premier ou deux premières places. Là, aujourd'hui, ça se corrige. Il y a moins de danger.
Bon, la Juve joue.
Mais pas forcément, parce qu'avec les playoffs sur un aller-retour, tu peux te faire fumer quand même par un mec qui est assez proche de ton niveau.
En playoff.
Donc en gros, ça va démarrer par les playoffs, quoi.
Bon, je rappelle le principe, les 8 premiers qualifiés pour les quarts de finale, pour les 8e de finale, pardon, de la 9e à la 24e place, c'est un barrage à jouer, une sorte de 16e de finale, qui ne porte pas son nom.
Parce que tous les gros ne seront pas dans les 8 premiers, hein. Il y a plus de 8 exactement. Gros, si on fait la liste des gros, il y en a plus de 8.
Les scandales vont être là, en fait.
Oui, mais
les
le 9e gros jouera le 24e de la phase de ligue.
Bah ouais, donc,
mais bon, sauf
c'est là qu'il y a un match à l'heure retour. Et qu'on se rend compte de la liste de course.
Un match à l'heure retour.
Parce qu'il y a un mec qui va être 6e et l'autre va être 11e, alors que le 11e est plus fort que le 6e sur le papier. Et on va se rendre compte, ah bah ouais, mais regarde, j'ai pas eu le même parcours, quoi.
Tout à fait. Il y a inéquité sur la liste de courses, comme tu dis.
À partir du moment où il n'y a pas les deux matchs.
Moi, j'aime bien les deux classements généraux, les 36 équipes. Moi, j'aime beaucoup ça.
On va regarder l'évolution du classement. Il n'y a pas deux matchs. Où on ne joue pas un aller et un retour, c'est-à-dire deux matchs. Voilà. Il n'y aura pas, Stuttgart Real, et c'est pas normal.
La dernière minute de la soirée, elle est anglaise. C'est parti, on envoie la musique. Belle voix.
Tu me rappelles Freddy King, le groupe britannique, avec Try Again. Essaye encore, je dirais. C'est pas pour vous, c'est pas pour toi, mon Nico, hein, ou pour aucun des drôles de dames ou personne. C'est pour Ebou Adams, qui doit être sûrement ce soir là à nous écouter, l'international gambien, le joueur le plus triste au monde parce que son raté ce week-end avec Derby County contre Cardiff en Championship, donc la deuxième division anglaise. a fait, je sais pas, je pense le tour du monde, le tour de toutes les planètes, le tour de l'intergalactique, tout ce que vous voulez, partout on l'a vu. C'est le plus gros raté de la saison déjà. Je pense que personne pourra battre cette saison notre ami Ebou Adams. C'est peut-être un des plus gros ratés de l'histoire. Si vous l'avez pas vu, allez, hein. Il est partout sur les réseaux sociaux, partout. Où on joue la 97e minute, Derby County mène déjà 1-0 à domicile contre Cardiff. Cardiff pousse pour revenir, ils ont un corner, tout le monde monte. Le gardien de Cardiff est sur la ligne médiane. Le ballon ressort. Le gardien de Cardiff et son défenseur se trouent un peu, donc Ebou Adams arrive à pousser le ballon. Il est tout seul, mais vraiment tout seul à l'entrée de la surface. Il n'y a plus personne dans le but. Et là, il tire à côté. Mais je sais même pas comment c'est même pas possible en fait de rater. Parfois tu rates parce que il y a un mauvais rebond ou le ballon, il y a un peu d'effet sur le ballon, ce qui fait que tu rates ta reprise, elle passe au-dessus à coup de fin. N'importe quoi, on en a vu des gros ratés dans tous nos championnats. Mais celui-là où il y a vraiment personne, où il vient de pousser le ballon, il a qu'à mettre un plat du pied, un pointu, n'importe quoi, il peut faire n'importe quoi pour marquer et il tire à côté. Et franchement, j'ai eu mal au cœur pour lui, même si ça m'a bien fait rigoler parce que je pense que même Fred Hermel aurait marqué.
Oui, bah, voilà.
Et Bou Adams, il a pas marqué.
Ah, mais moi, je suis nul en foot, bien sûr. Je pense que celui-là, j'aurais marqué. J'aurais trouvé moins vite, mais j'aurais marqué.
Sincèrement. Nico Jamain, les grandes années, il aurait marqué facile, lui, tranquille. Même avec son pied gauche, qui est son pied le moins fort.
Mais c'est tout, mais lui, c'est incroyable. J'ai remarqué une chose, il joue une fois avec un mec il y a 10 ans, il sait quel pied il joue, il connaît son style, c'est incroyable. Non, c'est mon Nico même.
Ah oui,
c'est mon Nico.
C'est son Nico, je lui dis.
Donc voilà. Mais on pense tous à Ebou Adams ce soir. On est un peu tous Ebou Adams ce soir, on est tous des hashtags Ebou Adams.
Mais je reconnais que je joue très mal au foot. Tu sais, quand on faisait chou-fleur à l'école, on voulait jamais de moi.
Les derniers.
Mais tu sais, il n'y a pas besoin d'être un grand chef pour savoir si la soupe est trop salée.
D'accord. Oui, je comprends le sens de tout ça. Voilà, pause. Dans un instant, les questions. Venez poser des questions à Fred, à Johan, à Julien et à Polo. Le 32-16 est ouvert. Allez-y, scellez dans le dame.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Fred Armel, Polo Breitner, Julien Laurence et Yoann Prochet. Nous avons 6 minutes 30 pour écouter nos auditeurs au 32-16 qui ont appelé pour poser des questions. Bonsoir Vincent.
Bonsoir les drôles de dames et bonsoir à Daniel.
Bienvenue sur RMC. Salut. Tu regardes sur YouTube, j'ai l'impression. Daniel a fait son apparition, effectivement.
Ah, dans ces cas-là, j'ai le droit de parler alors. Parce
non,
on m'a dit bonjour. On m'a dit bonjour, on m'a dit bonsoir.
T'as dit bonjour et maintenant tu peux refermer le micro.
Et je dis bonjour à tout le monde.
Bonsoir Daniel.
Mais j'ai pas le droit de parler.
Vincent, ta question est pour qui ce soir?
Ma question est pour Fred Hermel.
Très bien, moi j'ai supporté à l'Arsenal sur l'affiche, ok, mais question pour Fred.
Oui, alors normalement elle était pour Julien, mais j'ai écouté l'After Angleterre et du coup toutes les questions que je voulais poser, elles sont déjà répondues.
Et voilà. En fait, c'est le nouveau podcast Angleterre.
Voilà. En fait, je suis la rechange, quoi, voilà.
Le bouche-trou,
ouais, c'est ça.
Non, ce jour-là, Julien.
Non, mais c'est vrai, je suis la roue de secours.
Bah, t'es le mec à la fin du chou-fleur qu'on choisit en dernier, c'est ça.
Bah, voilà, c'est ça, j'ai pas changé depuis 40 ans.
Vincent, ta question.
Mais je réponds quand même.
Oui, alors ma petite question c'est à propos de la Real Sociedad. Je voulais te demander qu'est-ce que tu vois pour eux cette saison, sachant que là ils sont en bas de tableau, ils sont
16e, 4 points. Ouais.
Et puis ils vont jouer l'Europa, ils vont affronter Nice cette semaine. Qu'est-ce que tu vois pour eux cette saison? Ils ont eu également beaucoup de départs importants, donc
Michel Merino, c'est quand même que vraiment le fait de perdre Michel Merino, c'est quand même un gros coup. Sincèrement, avant le match contre le Real, j'aurais pu être inquiet. Après le match contre le Real, où ils perdent, franchement, il y a quelque chose qui revient. Moi, je les ai trouvés très bien. Ils n'ont pas eu de chance. Parce que c'est vrai, alors après les buts, les occasions, il faut les mettre. Hein. Mais quand tu joues contre le Real, que tu as plein d'occasions et que tu touches 3 fois les montants, c'est que là, il y a un moment, tu es un peu maudit, quoi. Donc, je pense que la Real Sociedad n'est pas à son niveau à la 16e place. Tu vois, ils vont aller, bien entendu, et on va les retrouver dans les places européennes, c'est-à-dire dans les 6-7 premiers en fin de saison. Là-dessus, il y a pas de souci. Donc, je pense que ce classement ne reflète pas, en tout cas, ce qu'on a pu voir hier soir. Ils sont capables d'être beaucoup mieux. Donc, on va voir. Mais c'est pas, je veux dire, je suis pas inquiet pour eux, quoi. Bon,
très bien. Mais Miesker, Fred.
Pardon.
Miesker, ça veut dire merci en basque.
En basque, d'accord, très bien.
Alors moi, je sais dire agour, ça veut dire salut.
Ah oui, au revoir.
Bon, et puis mon cher Vincent, Nice, Real Sociedad, ce sera la semaine prochaine, pas cette semaine-là. Ce sera dans.
Ah, c'est pas cette semaine, je crois que c'était la semaine prochaine.
Non, la Ligue Europa débute la semaine suivante.
Ouais, parce que la Ligue des Champions joue ce jeudi, donc.
Voilà, Vincent, très bonne soirée à toi. Tu viens quand tu veux sur RMC.
Vincent,
à très vite.
Salut, agour, Bichente.
On va vous laisser les amis entre vous, très bien.
Ah oui, Vincent, c'est Bichente.
Oui, Bichente, tout à fait.
On est où, je
Kylian est avec nous également. Salut, Kylian.
Bonsoir, messieurs.
Bienvenue sur RMC. Alors, ta question est pour qui ?
Moi, ma question est pour Julien. Ah. Une question très niche sur l'Angleterre.
Salut, Kylian.
Salut. J'ai eu l'occasion d'assister ce week-end là, au derby Milton Keynes-Wimbledon, AFC Wimbledon à Wimbledon. C'était une expérience de dingue. Et donc, c'est un match qui est très peu connu en France, mais qui fait grand bruit en Angleterre. Donc, je voulais savoir quelles étaient les réactions en Angleterre suite à ce match-là. Une victoire 3-0 de Wimbledon dans un derby très, très, très spécial en Angleterre.
Ouais, deux clubs qui ont connu beaucoup de déboires, hein. Comme tu le sais, Wimbledon après le fameux Crazy Gang des années 80, la banqueroute, les relégations, Milton Keynes qui est une ville qui n'existait pas il y a 30 ans, qui a été créée sur pièce. Ils ont déménagé le club de Wimbledon là-bas en fait, avant que le vrai club de Wimbledon soit recréé par les supporters. Enfin, c'est un petit peu compliqué, on n'a pas trop le temps, mais il faudrait qu'on s'y attarde un jour, peut-être dans le podcast anglais d'ailleurs, Kylian, si tu veux venir nous rejoindre, ouais, un jour on pourrait organiser ça. Ouais, parce que c'est vraiment une histoire assez incroyable qu'on voit. J'ai l'impression qu'en Angleterre, je sais pas chez les autres, mais chez nous, d'avoir deux clubs qui finalement à la base sont le même club, mais aujourd'hui plus le même club, mais qui effectivement, surtout du côté de Wimbledon, pur et dur, on a vraiment un vrai ressentiment vers ce qui s'est passé vers Milton Keynes et les MK Dons. Donc c'est vrai que c'est à chaque fois chargé. Tu sens un petit peu la tension. Ouais, tout à fait.
Il y a un côté ambivalent. Il y a un côté des supporters qui disent ce club n'existe pas, on veut pas du tout en entendre parler. Et pour nous, ce match n'est même pas une réalité parce que ce club n'existe pas. Et après, moi, ce que j'ai vu au stade, c'est des gens forcément qui sont virulents, qui pleuraient de joie après la victoire face à Milton Keynes. Donc, il y a ce côté vraiment très particulier où le match n'est pareil. Il n'y a aucun autre match qui est comme ça en Angleterre, selon moi, ou même en Europe, parce qu'il y a cette ambivalence qui existe entre les deux clubs où, au final, c'est un seul et même club ou un club qui a volé l'identité de l'autre.
Merci, ouais, Kylian.
C'est incroyable. 8000 spectateurs, je crois, ça, vous étiez, ou 9000, c'est ça, pour un match de 4ème division.
C'est la Ligue 2, hein, 4ème division anglaise.
C'était en direct à la télé, ouais, 9000 personnes. C'est
énorme. Ouais, ouais, comme les Girondins, c'est 8000 aussi.
Ouais, bravo, Kylian, pour ta question. Hein, vraiment très, très.
Ouais, c'est pointu et c'est intéressant. Voilà, on parle aussi de la Ligue 2, la 4ème division anglaise, dans le lundi soir avec les drôles de dames. Bonne soirée à toi, Kylian. Il nous reste une minute. Daniel a le droit à une carte blanche. S'il veut s'exprimer, c'est maintenant. S'il a une question à poser, surtout, il peut le faire. C'est rare d'avoir une carte blanche à l'antenne. Ça fait juste 19 ans que t'en as une, mais bon.
Vas-y, c'est avec une carte blanche.
Est-ce que t'as une question à poser à une drôle de dame qui te vient spontanément, là? On a parlé de la Juve, on a pas parlé de la Juve ce soir.
Vous avez pas tout abordé déjà avec.
Il a fallu faire des choix. Vas-y, hein, même si une redite, c'est pas grave.
Johan a déjà parlé de la Juve et de l'ouverture de la Ligue des Champions, c'est demain 18h45.
On fait pas 0-0, nous, ici. Pas 0-0.
Mais c'est ça, justement. Il reste sur 2-0-0 alors que semblait se dessiner une équipe beaucoup plus spectaculaire qu'avant. Avant le début de cette Ligue des Champions contre le PSV, où tout le monde va attendre une victoire, évidemment, en Italie. Quel est un peu l'ambiance, le contexte autour du club qui retrouve en plus la Ligue des Champions?
Ouais, ça s'est un peu refroidi parce qu'évidemment les deux premiers matchs avaient été particulièrement concluants, mais l'adversité faisait qu'on attendait de voir un petit peu face à des adversaires de meilleur niveau, notamment la Roma, même si Empoli c'était franchement pas fou, même
après,
si
la Roma n'avance pas non plus, donc bon.
Ouais, exactement. Et puis Empoli accroche tous les gros depuis le début de la saison. Mais en fait, il y a pas mal de de questions sur cette Juve-là, notamment l'animation offensive, parce que pour le moment, c'est vrai que ils ont du mal à se créer beaucoup d'occasions, Vlahovic est assez esselé. Il a évidemment aussi le fait que beaucoup de joueurs sont arrivés au dernier moment, et donc les Cop Miners qui peuvent être décisifs offensivement, les Nico Gonzalez qui peuvent être décisifs offensivement. C'était leur premier match ce week-end et on va attendre qu'ils montent en gamme. Ouais,
ils sont encore
physique.
Pas prêts là, ils devraient être prêts quand même.
Non, mais tu sais, en Italie, j'avais mis ça dans nos échanges de mails. Moi, j'ai le sentiment que il y a plein de clubs qui jouent avec l'effectif de la saison passée et il y a plein de gros joueurs qu'on n'a pas encore vu, qui sont pas encore arrivés parce que le mercato était très tardif en Italie. Tu prends Naples, les Neres, McTominay, Gilmour, on les a pas vus. Nico Gonzalez, Cop Miners, on les a pas vus. Morata, même si c'est plus lié à une blessure, mais il arrivait là 2 jours ou 3 jours avant le premier match de la saison, on l'a pas encore vu. Donc on attend tous ces joueurs là qui sont des futurs stars ou en tout cas les stars actuels du championnat qu'on n'a pas encore vu. Et à la Juve, et ça sera la même chose parce qu'il a fait jouer beaucoup de jeunes depuis le début de la saison. Mais quand il aura réussi, par exemple, un Douglas Luiz, je pense qu'il y a un gros travail à faire avec lui. Et c'est
Juve.
Pour le moment, c'est un peu un peu moins, c'est un peu difficile pour Douglas Luiz à Juve. Mais on verra, il y a de grosses attentes, ça c'est clair, mais Mota il a le temps, il a l'effectif de qualité pour bien travailler, tout le monde le soutient, et même au stade, hein.
Il vaudrait mieux commencer par une chiffre d'affluence qu'on avait pas sorti d'enlever un peu de pression, quoi. On verra demain soir pour un crochetico, Juventus Turin, PSV Eindhoven, 18h45. Merci les drôles de dames. Tiens, attention, rendez-vous demain soir pour la Ligue des Champions. On la lance sur RMC, évidemment, on sera là jusqu'à la fin de la saison. Comme chaque année. Fred, instant promotionnel, 10 secondes.
Nouveauté sur RMC, sur rmc.fr et l'appli RMC. Délivre RMC, le premier podcast littéraire de RMC que j'ai la chance de présenter.
C'est pas sur France Inter,
c'est RMC.
Fred,
c'est RMC,
mais bravo, Fred.
Mais incroyable, nouveauté.
Voilà.
Bravo, Fred Hermel.
On va même du France Inter.
Fred,
on va parler. Rien que pour ça, j'ai envie d'écrire un livre.
On va parler. On va être invité chez toi. Il pourra. Mais on parle de livres. Pas sur un ton élitiste, sur un ton comme dans l'after, on parle normalement des livres et on dit ce qu'on pense. Et on reçoit des auteurs extraordinaires. Premier invité, un livre génial, c'est Philippe Collin, le barman du Ritz, c'est le fameux livre. C'est à retrouver d'ores et déjà sur l'appli RMC, sur RMC.fr. Délivre RMC.
Délivre RMC dans un instant.
Je peux inviter Polo pour parler littérature.
Ah, ben bien sûr.
L'after.
J'espère, je ne raterai pas ça.
C'est parti, il y a beaucoup de retard.
Toto.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.